Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Bonjour, je m'appelle Eddie King et je suis très heureux d'être le porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Préparez-vous à célébrer parce que cette année, les rendez-vous fêtent leur 25e anniversaire. C'est une année toute spéciale parce qu'on fête aussi le 10e anniversaire de la tournée Juste pour rire, dont je serai l'animateur. On en profite pour lancer le nouveau concours d'humoristes en herbe, les As du rire. Visitez dès maintenant le rvf.ca. Vous y trouverez les détails du concours et tout ce que les rendez-vous vous proposent, dont la programmation des activités spéciales qui se dérouleront du 1er au 31 mars.
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, ce n'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci beaucoup.
Bonjour, bonjour.
Eh oui, laissez-vous tenter, préparez-vous, madame, monsieur, pour un mois de mars, un mois de la francophonie, au rythme du groupe mythique La Compagnie Créole, le 28 mars 2023, à l'auditorium Saint-Frère-André, à 19h30, un concert unique, un événement de francophonie en fête. Tirage au sort, des billets, retrouvez les détails sur popourrichaud.com. Et merci à Francophonie en fête et tous nos partenaires qui nous soutiennent. Mois de mars, mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM Toronto, en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Le mois de la francophonie nous offre l'occasion de fêter la langue française dans toute sa diversité. Au menu, la valorisation des multiples projets réalisés dans le cadre de l'opération de sensibilisation à la langue française. Dis-moi 10 mots. Poésie, rencontre littéraire exceptionnelle, découverte musicale, les rendez-vous à Toronto, au Canada et dans le monde, des cadeaux et des invités surprises. Pour nous joindre, popourri@cut.fm. Mois de mars, mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Joignez-vous aux 10 millions de francophones au Canada. On vous y attend. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de 3 heures dans le cadre du lancement du mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM à Toronto. Une émission réalisée en partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde, France Inter, Ciné Franco, l'AFA Toronto, le CREFO, les éditions Prise de Parole, le Festival Théâtre à Communauté des Noirs à Montréal et la Société d'Histoire de Toronto. Le thème de cette année, célébration. L'ingénieur du son, DJ Devera et les DJ French Fuse. Production et animation, Eric Kader qui vous accompagne depuis plus de 35 ans. Et pour nous écouter tout au long de l'année, madame, monsieur, une seule adresse, popourichaud.com. Chaque semaine, Popourichaud, www.cut.fm, vous propose un voyage à la découverte d'une initiative montrant le dynamisme, le caractère vivant et mondial de la langue française et de la francophonie. Du Québec au Sénégal, en passant par la Louisiane, Toronto, nos collaborateurs, chroniqueurs et médias partenaires vous présenteront des témoignages, des rencontres littéraires, des talents francophones en herbe, des artistes, des gens d'action, des voix, des sans-voix, des francophones engagés, exceptionnels, qui font des choses merveilleuses pour promouvoir la langue française dans tous ses accents et sa diversité. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires qui ont répondu à l'appel cette année, entre autres Ciné Franco, qui vous invite à célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain et vous donne rendez-vous à 19h le 8 mars au théâtre Varsity, 55 rue Bloor Ouest, métro B ou Bloor et Young, avec le film Simone, le voyage du siècle. Un film qui nous amène dans la vie de cette grande dame française, son destin, son enfance, ses combats personnels, politiques, ses tragédies. Réservez vos billets sur cinéfranco.com. Deux paires de billets, je dis bien deux paires de billets pour les membres de la radio. Allez, écrivez-nous immédiatement popourri@cut.fm. L'équipe de Simone, le voyage du siècle, avec Elsa Zilberstein, Rebecca Mardar, Elodie Bouchez et Olivier Daran, étaient sur France Inter lors du lancement du film l'année dernière. Soyez au rendez-vous vers 11h30, deux paires de billets donc pour le film Simone, le voyage du siècle, le 8 mars à 19h au théâtre Varsity à 19h. Et on célèbre les francophonies tout au long du mois sur CUT 89,5 FM. Nous sommes très heureux d'accueillir un nouveau partenaire, l'ACFA Toronto, un organisme à but non lucratif contribuant à l'avancement des sciences au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. Ils organisent la toute première finale torontoise du concours Ma thèse en 180 secondes, le 21 mars prochain, dès 17h30 à Massey College, dans la Common Room. Cet événement s'inscrit également dans la Semaine de la francophonie de Toronto. On invite les étudiants de Toronto, des environs, à présenter leurs recherches de façon ludique et vulgarisée, de façon à démocratiser et diffuser les savoirs au sein de la communauté. Cet événement est organisé par un comité d'étudiants de la région et soutenu par l'ACFA Toronto. Allez, on vous invite à célébrer la relève en recherche de votre ville ou encourager les candidats de votre université à la toute première finale torontoise du concours Ma thèse en 180 secondes. Plus de 1 500 $ en prix seront remis durant la soirée. Le public sera invité à voter pour les meilleurs candidats. Retrouvez tous les détails sur notre site web popourichaud.com ou acfa.ca/acfa-toronto. Toronto. Et la 5e édition du festival Fêter comme Noir se déroule jusqu'au 26 mars prochain à Montréal. L'invité d'honneur cette année, Jenny Laguerre, actrice, conteuse, danseuse, enseignante d'origine haïtienne qui vit dans la région de Toronto. Elle joue aussi de temps en temps au Théâtre français de Toronto et à des festivals de contes. Plus d'une vingtaine d'activités culturelles disposées en plusieurs parties. Regard ailleurs à Jacmel, Haïti, qui se termine aujourd'hui le 5 mars. Un colloque sur le théâtre inclusif du 22 au 23 mars prochain. Et un grand concert à ne pas rater, madame, monsieur, hommage au fameux groupe Zéclé le 25 mars prochain. Ce sera au collège Ahuntsic, salle de spectacle du collège Ahuntsic à Montréal, cocktail dès 18h, et le tout avec les membres du groupe. Et puis clôture du festival le 26 mars prochain avec la pièce Maman la mère, Jenny Laguerre bien sûr qui en est l'autrice, au Théâtre Rouge le 26 mars prochain. Allez découvrir la programmation complète sur compagnietheatrecreole.ca ou popourichaud.com. Et ne manquez pas le prochain rendez-vous de la Société d'Histoire de Toronto, Muse, musique, amusement, avec la conférencière Dina Gontard, une passionnée de musique. Elle propose de nous aider à entendre, écouter, décoder et reconnaître des signatures musicales de divers effets. Eh oui, nous ferons des voyages dans le temps et modes musicaux différents. C'est prévu pour le mercredi 22 mars à 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 24 Spadina Road à Toronto. Tous les détails sur le site de l'Alliance Française ou sht.ca pour Société d'Histoire de Toronto ou encore popourichaud.com. Et dans le cadre du mois de la francophonie, Francophonie en fête vous invite à un spectacle mémorable où la joie contagieuse et la fête sans retenue occuperont toute la place. Et gagnez vos places pour le seul et l'unique concert de la Compagnie Créole à Toronto le 28 mars. La Compagnie Créole, groupe mythique et ambassadeur du soleil, vous y attend nombreux le 28 mars prochain à 19h30 à l'auditorium École Saint-Frère-André, 330 avenue Lansdowne, Toronto. Retrouvez tous les détails sur francophonieenfête.com ou popourichaud.com. Nous aurons un des membres en entrevue avant la fin de cette émission. Et puis nous irons faire un petit tour à l'île Maurice qui célèbre la fête de son indépendance le 12 mars prochain. Le groupe musical Blue Bay Band de Toronto vous invite à fêter une soirée mémorable autour d'un dîner typiquement mauricien le 11 mars prochain au Galaxy Grand Convention Center, 200 Advance Boulevard à Brampton. Répondez s'il vous plaît via Eventbrite, c'est très important, ou allez sur notre site pour avoir toutes les infos, ou encore envoyer un courriel, un email si vous préférez, à info@bluebayband.com. Tous les détails sur popourichaud.com. Mois de la francophonie sous le thème de célébration. Eh oui, pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie a mis du temps pour dénoncer clairement l'invasion russe en Ukraine? L'Ukraine, membre observateur depuis 2006, selon Jean-Louis Roy, ancien secrétaire général de l'OIF, cette absence de prise de position est difficile à défendre, surtout quand on a vu plusieurs organisations internationales comme l'UNESCO et la Commonwealth le faire. Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, est actuellement sur la sellette pour mauvaise gestion et des renvois à répétition de plusieurs hauts gradés, y compris des Canadiens. Le 24 février dernier 2022, Vladimir Poutine prenait de court le monde entier en lançant une opération militaire spéciale en Ukraine. La guerre est de retour en Europe. Un an après, la société ukrainienne est bouleversée et l'ordre mondial transformé. Mais comment cette guerre nous a-t-elle changé? Émission spéciale, l'Ukraine, 365 jours de guerre, l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. France Inter donne la parole à ceux et celles qui ont fui la guerre, à ceux et celles qui les ont accueillis en France. Comment se passe leur intégration? Et qu'en est-il de l'élan de solidarité des Français, des Européens? Pour lancer ce mois de la francophonie, nous aimerions rendre hommage à notre façon à ces Ukrainiens qui ont perdu leur vie, ces enfants orphelins, ces déplacés, ces personnes blessées, handicapées pour la vie. Nous voyagerons à travers des témoignages, des rencontres, grâce à une émission spéciale de France Inter réalisée le 24 février dernier pour marquer le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour nous joindre, popourri@cut.fm. Mois de la francophonie, mois de la solidarité. Place à France Inter.
France Inter. Et voici le 13-14, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14. Au sommaire de ce vendredi 24 février, une journée particulière, mais presque les mêmes mots. Nous sommes forts, nous sommes prêts à tout. Ceux du président Zelensky ce matin en vidéo, comme tous les jours depuis un an. Des mots d'espoir vers la victoire. Un an après l'invasion russe, nous irons à Kiev où le calme masque l'inquiétude. À Moscou, où en pleine guerre de communication, on revendique aussi la victoire. Dans le Donbass, où les combats les plus violents font rage et où les rares civils tentent de fuir. Et en France, où une réfugiée ukrainienne aide ses compatriotes à penser leurs mots avec des mots. Dans ce journal aussi, un plan rail à 100 milliards d'euros, des RER dans les grandes villes. Elisabeth Borne veut nous faire préférer le train. Pas de tabou. Emmanuel Macron est venu dire aux élus corses ce matin que tous les formats étaient envisageables sur l'avenir institutionnel de l'île. Pierre Palmade sera lundi s'il reste assigné à résidence ou s'il doit partir en prison. Des robes et des stars. Ovalie, reine du salon de l'agriculture avec sa robe acajou. C'est une vache de race Salaire. Et des étoiles du cinéma, c'est la cérémonie des Césars ce soir. Et à 13h30, nous donnerons la parole à ceux qui ont fui leur pays en guerre et à ceux qui les ont accueillis en France. On estime à 115 000 le nombre d'Ukrainiens dans notre pays. Comment s'intégrer quand on ne parle pas français? Travailler? Comment étudier aussi? Et pour ceux qui les hébergent, comment trouver la bonne distance? Un moment de partage et de solidarité jusqu'à 14h avec vos témoignages au 01 45 24 7000 et nos invités.
France Inter, le 13-14. Ukraine, 365 jours de guerre.
Les sirènes d'alerte anti-aérienne n'ont pas retenti ce matin à Kiev pour une fois. Et c'est surprenant tant cette journée est chargée en symboles. Il y a un an tout juste, l'Ukraine se réveillait sous des bombardements massifs pour entrer dans la longue nuit de la guerre. Le président Zelensky s'est adressé ce matin sur les réseaux sociaux aux Ukrainiens.
Великі народи великої України.
Il y a un an, ce jour-là, à environ 7h du matin, je me suis adressé à vous pour une courte déclaration qui n'a duré que 67 secondes. Elle contenait les deux choses les plus importantes, que la Russie a commencé une guerre à grande échelle contre nous et que nous sommes forts, nous sommes prêts à tout, nous vaincrons tout le monde parce que nous sommes l'Ukraine. C'est ainsi que le 24 février 2022 a commencé la plus longue journée de notre vie, la plus dure de notre histoire moderne. Nous nous sommes réveillés tôt et nous ne nous sommes pas endormis depuis. Nous n'avons pas levé le drapeau bleu et nous avons commencé à défendre le bleu et le jaune. Nous n'avions pas peur, nous ne nous sommes pas effondrés, nous ne nous sommes pas rendus.
Nous ferons tout pour remporter la victoire cette année, a poursuivi le président ukrainien. Nous sommes forts, prêts à tout, nous vaincrons tout le monde parce que nous sommes l'Ukraine. Nous atteindrons la victoire, lançait au même moment en contrepoint l'ancien président russe Dmitri Medvedev. On va y venir dans quelques minutes. Et l'heure est aussi aux hommages. Des cérémonies locales sont prévues notamment à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, où les Russes se sont livrés à un crime de guerre. Personne n'a oublié les images de ces corps de civils frappés en pleine rue et abandonnés là. Bonjour Jean-Marc Four.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Kiev. Comment la capitale vit-elle cette journée si particulière ?
Ah, l'ambiance ici est étrange, hein, place Maïdan en plein cœur de Kiev. Étrange d'abord parce que, vous le disiez, tout est calme, plus calme que d'habitude. Aucune sirène d'alerte anti-aérienne depuis ce matin, alors que c'est quasiment le cas tous les matins. Souvent vers 10h, même chose dans le reste du pays, très peu d'alerte depuis ce matin. Les Ukrainiens redoutaient une reprise des hostilités, une salve de tir russe en ce 24 février. Volodymyr Zelensky l'avait redit hier. Les mesures de sécurité anti-aérienne ont été renforcées aujourd'hui à Kiev. Les écoliers et collégiens ont été invités à rester à la maison avec des cours à distance. Les administrations publiques sont pour la plupart en télétravail. Les contrôles étaient stricts tout à l'heure autour de la place Sainte-Sophie lorsque le président Zelensky a présidé une brève cérémonie militaire d'hommage aux victimes. Et c'est vrai que depuis ce matin, vous le disiez, on a surtout eu droit à une guerre des mots, une bataille de communication entre Moscou et Kiev, chacun revendiquant la victoire prochaine par réseaux sociaux interposés. Alors la vie ne s'est pas pour autant totalement arrêtée à Kiev. Sous un ciel gris, les voitures continuent de circuler. Ici, place Maïdan, les passants vaquaient à leurs occupations. Le centre commercial situé sous la place, sous nos pieds, est ouvert. Boutiques, supermarchés, on pourrait presque se croire dans n'importe quel centre commercial d'une ville française. C'est une façon aussi pour les habitants de Kiev d'exprimer leur détermination, en fait, et Volodymyr Zelensky insistera sans doute là-dessus lors d'une conférence de presse qu'il doit tenir dans 1h30 environ. Donc étrange ambiance ici à Kiev, alors que nous sommes entrés dans cette deuxième année de guerre avec ce sentiment prégnant que le conflit va durer.
Jean-Marc Four, en direct avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Sur le terrain, la Russie a pris 18% du territoire ukrainien, mais elle a dû renoncer à prendre la capitale, abandonner le nord, puis le nord-est de l'Ukraine, et enfin Kherson, la grande ville du sud, et la ligne de front est bloquée dans le Donbass, enlisée par endroits dans les tranchées. Mais en ce jour anniversaire, elle promet la victoire et menace d'aller jusqu'aux frontières de la Pologne. Ce 24 février est un jour férié en Russie. On fait le pont. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Christelle.
Il n'y aura donc aucune prise de position de Vladimir Poutine, c'était d'ailleurs prévu. Mais Dmitri Medvedev en profite pour jouer sa partition de faucon.
Oui, et au-delà des menaces habituelles, hein, l'ancien président russe trace des lignes, en fait, dans ce message qu'il a écrit sur Telegram. Il définit ce qui, dans l'esprit des dirigeants russes, pourrait être la suite de ce conflit. La façon dont ils envisagent de se sortir de ce qui est devenu pour eux un bourbier, il faut continuer l'offensive, explique-t-il, sous-entendu jusqu'à l'épuisement, jusqu'au moment où les deux parties n'auront pas d'autre choix que négocier. D'après lui, et là aussi on le comprend en creux, l'aide de l'Occident ne sera pas éternelle. Il y aura donc un accord où, dans son esprit, la Russie restera sur ses positions actuelles, ce qui, évidemment, et il en a bien conscience, et il l'écrit, ne réglera rien. Le conflit se poursuivra alors, selon lui, de manière larvée, dans une sorte de guerre de basse intensité, et cela pourrait durer des années, écrit-il, et pourrait de nouveau provoquer un conflit dur. C'est pour cela, dit-il, qu'il faut éliminer le régime de Kiev, pousser l'avance jusqu'aux frontières de la Pologne, pas certain que lui-même croie cette dernière partie, quand on voit les difficultés de l'armée russe à gagner ne serait-ce que 500 mètres à Bakhmout actuellement. Mais cette déclaration de Dmitri Medvedev traduit bien, au fond, la pensée actuelle du pouvoir russe, la fuite en avant pour contraindre les Ukrainiens à s'asseoir à la table des négociations. Autant d'options évidemment inenvisageables à Kiev quand on écoute Volodymyr Zelensky ce matin.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. La Russie s'est jurée de reprendre intégralement le Donbass. La ligne de front est bloquée depuis 7 mois près de Bakhmout. La milice Wagner affirme ce matin avoir repris une localité proche. Mais les civils, eux aussi, vivent un véritable enfer. Nos envoyés spéciaux Boris Louman et Arthur Gerbeau sont partis à leur rencontre.
La ville de Bakhmout est au bout de cette ligne droite, à 4 kilomètres. Mais depuis quelques heures, les frappes s'intensifient. Impossible désormais pour nous d'emprunter cette route qui était jusqu'alors le dernier accès à la ville. Nous devons donc nous arrêter dans cette petite commune de Tchassiviar. La route est fermée pour les journalistes et les volontaires, nous disent ces deux militaires. Malgré les échanges de tirs de mortier entre Russes et Ukrainiens, quelques centaines de civils sont restés dans cette ville. Souvent, comme Olga, ils n'ont pas d'autre choix.
Je n'ai nulle part où aller. On a peur, c'est effrayant. On se cache dans les abris. Et en plus, ma mère est malade. Elle ne peut pas bouger. Et puis avant, on pouvait avoir des médicaments. Mais maintenant, il n'y en a plus.
Ici, à Tchassiviar, plus rien ne fonctionne, ou presque. Nous entrons dans la poste de la ville. Les guichetières font leur carton.
On est en train de préparer notre évacuation. Mais avant, on doit distribuer l'argent des pensions aux retraités restés ici. Si on part maintenant, personne ne le fera. Tout abandonner et partir, tout ça, c'est dégueulasse.
Ces deux postières auront assuré leur service jusqu'au dernier moment. Mais là, c'en est trop. Il y a quelques heures encore, deux civils étaient tués dans des frappes russes ici à Tchassiviar.
Boris Louman, envoyé spécial dans le Donbass avec Arthur Gerbeau. Ils sont évacués, d'autres, vous venez de l'entendre, d'autres ont pris le chemin de l'exil. Parfois, dès les premiers jours, plus de 8 millions d'Ukrainiens sont partis. Et qu'ils soient là-bas ou ici en France, ils sont environ 100 000, ils sont encore traumatisés. Nadia est médecin, elle est arrivée en Isère l'année dernière et elle écoute la douleur de ses compatriotes. Lionel Cariou l'a rencontrée.
Nadia et sa fille de 17 ans sont arrivées en Isère en mars 2022, accueillies dans une famille du Sapé. Nadia est médecin et pendant 6 mois, elle a exercé au CHU de Grenoble, exclusivement auprès de patients ukrainiens qui, comme elle, ont connu le traumatisme de la guerre et l'exil.
C'est tellement important pour eux de voir un médecin ukrainien qui peut les comprendre, qui peut les aider. Parfois, je recevais des mères de famille avec des problèmes de santé. Et à la fin de la journée, j'avais vraiment de la douleur dans le cœur. Ce sont des histoires différentes à chaque fois et c'est difficile.
KIUT 89.5, the sound of your city.
Mois de mars, mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM Toronto, en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Le mois de la francophonie nous offre l'occasion de fêter la langue française dans toute sa diversité. Au menu, la valorisation des multiples projets réalisés dans le cadre de l'opération de sensibilisation à la langue française. 10 mois, 10 mots. Poésie, rencontres littéraires exceptionnelles, découvertes musicales, les rendez-vous à Toronto, au Canada et dans le monde, des cadeaux et des invités surprises. Pour nous joindre, popourri@cut.fm. Mois de mars, mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Joignez-vous aux 10 millions de francophones au Canada. On vous y attend.
Ukraine, 365 jours de guerre. Christelle Rebière.
Il y a un an, dans les premiers fracas de la guerre, il ramassait à la hâte quelques affaires et prenait le chemin de l'exil. 8 millions d'Ukrainiens ont choisi de partir. C'est l'exode le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 115 000 sont arrivés en France. Et nous avons envie de leur donner la parole aujourd'hui sur France Inter, d'entendre aussi celles et ceux qui les ont aidés à prendre pied chez nous, à défaut d'y avoir des racines, à se ressourcer, à y entamer ce que beaucoup d'entre eux espèrent être une parenthèse avant leur retour au pays. Vos témoignages, évidemment, sont les bienvenus. Comme d'habitude, 01 45 24 7000. En studio avec nous, Anya Ewilska, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivée il y a un an tout juste et vous allez nous raconter votre parcours. Nous sommes en ligne avec Delphine Rouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de France Terre d'Asile. Bertrand Cosson est en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé dans l'urgence la Maison de l'Ukraine à la Cité universitaire internationale à Paris pour les étudiants. On va y venir. Mais d'abord, je voudrais m'adresser à vous, Anya. Vous êtes originaire de Lviv, la grande ville de l'ouest du pays. Vous êtes partie très vite avec votre mère et avec votre fils de 6 ans. Où habitez-vous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on habite un petit studio gentiment offert par nos amis. Et avant, on vivait 6 mois chez mes amis, hébergés par une jeune famille avec 2 enfants, et nous 3 en plus. Donc oui. On partageait un appartement à nous 7.
Et comment s'est passée la cohabitation chez vos amis ? Parce que quand il y a toute une famille qui arrive comme ça, c'est pas forcément si simple, même si on est plein de bonnes intentions.
Je pense que ce n'est pas très simple, mais nous, on essayait d'être quand même gentils, à l'écoute, toujours attentifs. Tout comme mes amis qui nous accueillaient. Donc il y avait un petit peu les différences culturelles, les différences des habitudes, mais on a quand même très bien réussi à cohabiter ensemble et même à partager beaucoup et surtout enrichir les deux familles.
Vous avez la chance de maîtriser notre langue, ce qui simplifie quand même grandement les choses.
Oui, j'ai vraiment de la chance de parler français.
D'ailleurs, c'est ce qui vous permet d'exercer votre métier aujourd'hui en France, Anya ?
Oui, je suis professeure de la langue française, traductrice et interprète dans une entreprise des technologies informatiques et j'enseigne le français. Et comme maintenant, après la Covid, on était vraiment très prêts à travailler en ligne, à distance, j'avais pas vraiment le changement de mon activité professionnelle.
Donc vous enseignez le français à d'autres Ukrainiens ?
Oui, j'enseigne le français à mes collègues.
À vos collègues ici en France ?
Non, en Ukraine.
Là-bas, c'est-à-dire voilà, en ligne, comme vous le disiez.
Un petit peu partout maintenant, mais majoritairement en Ukraine.
Est-ce que vous êtes retournée chez vous, à Lviv ?
Oui, nous sommes retournés en août, avec cet espoir de rester, peut-être. Mais comme Ostap, il allait à l'école, c'était le CP.
C'est votre fils ?
C'est mon fils, il s'appelle Ostap, oui. Oui. Et je suis allée voir la directrice de l'école à Lviv, en Ukraine, et elle m'a dit, si vous avez la possibilité que votre fils aille dans une école n'est pas en Ukraine, ce serait bien qu'il ait cette première impression de scolarisation en France, dans notre cas, pour être avec ses copains, pour être calme émotionnellement, pour ne pas descendre dans les abris bombes, ce qui était le cas franchement tout l'automne et l'hiver pour les enfants ukrainiens. Ce n'était pas facile. Et comme Ostap, mon fils, il a appris la langue française assez rapidement grâce à 2 filles de mes amis. Et parce qu'il voulait jouer, s'exprimer, comprendre, partager un peu. Donc c'était vraiment rapide ce procès. J'ai pensé que ce sera peut-être même bien qu'il aille à l'école en France pour améliorer ses connaissances et puis Et devenir un peu bilingue.
Et oui, qu'il soit bilingue. Votre mari, lui, il est resté là-bas, à Lviv?
Oui, mon mari est resté.
Parce que, on le rappelle, les hommes n'ont pas le droit de quitter le pays.
Non, ils n'ont pas le droit de quitter le pays entre 18 ans et 60 ans.
Oui, puisqu'ils peuvent être mobilisables à tout moment. Il travaille, votre mari? Il arrive à vivre à peu près normalement?
Il a moins de travail, mais il travaille quand même. Il est avocat juriste, donc il reste comment un petit peu d'affaires de loi et de droit. Donc il travaille, mais à côté il fait beaucoup de bénévolat comme tous les Ukrainiens en Ukraine.
C'est-à-dire?
Lui qui connaît bien les voitures et les véhicules, avec ses amis, il recherche des voitures, des véhicules plutôt, à l'étranger. Il les achète aux enchères, il les emmène en Ukraine, il les aménage pour qu'elles partent à l'est, vers la guerre.
Comment vivez-vous ce conflit à distance, Anya, en ce moment?
Je peux pas me plaindre parce que je suis en sécurité. Je suis très bien accueillie. Je suis dans un pays que je connais très bien. Mais c'est émotionnellement, c'est très compliqué. Quand j'étais en Ukraine, j'ai passé 3 semaines en Ukraine en août. Et je dois vous dire que je me sentais plus calme en Ukraine avec les alertes ici en France. Parce que quand tu es dedans, tu contrôles un petit peu ce que tu fais, en gros. Mais quand tu es loin, la seule chose que tu peux faire, c'est juste lire les infos, écouter les infos et
redouter le pire.
Et redouter
en fait,
le pire.
Ouais.
Surtout, c'était en octobre quand on avait la première attaque massive en Ukraine. Alors, je pense que je n'oublierai jamais ce jour-là parce que tu es juste devant ton portable à surfer sur Internet pour regarder est-ce que Lviv était bombardé? Oui, non. Kyiv, où? Qui? Où est mon mari? Où est la famille? Comment ça se passe? Il n'y avait pas de réseau, comme toutes les stations électriques étaient endommagées, donc il n'y avait pas trop de réseau. Donc ça, c'était terrible. Et c'est ce qu'on vit. Les gens qui sont déplacés contre leur gré, c'est vraiment
C'est votre quotidien. Delphine Rouillot, Anya vient de nous raconter comment elle vit ici dans un français remarquable, hein. Mais ce n'est pas si simple pour la plupart des réfugiés ukrainiens qui ne parlent pas du tout français.
Oui, exactement. C'est-à-dire que Anya a la chance d'arriver en France en ayant déjà l'essentiel, c'est-à-dire la capacité à pouvoir parler, donc à pouvoir travailler. Sur les 100 000 personnes qui sont arrivées, le nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui reste quand même marginal par rapport à la grande masse des personnes.
Il y en a combien à peu près?
Bah, on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est que les Ukrainiens ont eu le droit de travailler tout de suite en arrivant en France, ce qui était quelque chose d'extrêmement positif parce que on leur a pas du tout mis de frein administratif à l'accès au travail, mais qu'on voit bien que ceux qui parlaient français ont pu travailler, mais que pour l'essentiel, ils sont encore actuellement plutôt en train d'apprendre la langue que de pouvoir véritablement travailler.
Alors, vous y faisiez allusion, Delphine Rouillot. Il y a 115 000 Ukrainiens qui ont été accueillis en France depuis un an. Ils ont un statut particulier. Expliquez-nous.
Alors, ils ont un statut qu'on appelle la protection temporaire, qui est un statut européen, en fait, qui a été activé très rapidement après le déclenchement de la guerre, donc il y a tout juste un an, et qui leur donne, en fait, toute une série de droits sociaux qui leur permet de rester sur le territoire en pouvant travailler, je vous le disais, avoir des soins de santé remboursés, scolariser des enfants, être en situation, en fait, régulière et bénéficier d'aide sociale, d'une allocation financière, en fait, qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Donc, c'est un statut très particulier quelque part, a été une décision courageuse prise par l'Union européenne de dire il faut absolument qu'on arrive très rapidement et partout en Europe à proposer aux Ukrainiens qui sont en train de fuir leur pays un cadre dans lequel ils puissent se poser et obtenir un peu de répit.
Est-ce que vous savez combien sont rentrés au pays? Parce qu'on dit 115 000 Ukrainiens, mais ça, c'est le total, en fait, depuis un an.
Non, on sait absolument pas. Et puis ce qu'on sait, c'est exactement ce qu'Anya disait. Il y a aussi des gens qui sont rentrés, qui sont revenus. Comme les Ukrainiens ont une grande liberté de circulation en Europe, on n'a pas du tout de capacité à avoir une évaluation précise des gens qui auraient fui et qui se seraient réinstallés en Ukraine. Je pense qu'on est plutôt dans quelque chose. Enfin, il y a des gens évidemment qui ont pu rentrer, notamment dans l'ouest du pays. Ça, on le sait. Mais on sait aussi que il y a beaucoup de personnes qui effectivement ont essayé de rentrer, et puis se sont dit que finalement, il fallait peut-être encore rester quelque temps en France. France ou en Pologne, en Allemagne, enfin dans des pays en sécurité, en réalité, parce que le conflit est quand même très loin de se terminer. Et on voit bien que dans les chiffres de scolarisation, il y a plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont scolarisés. On voit bien que la rentrée scolaire a bien montré que les personnes étaient quand même largement restées sur le territoire français.
En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que la vague de réfugiés s'est quasiment tarie ces derniers mois. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur veut réduire un peu la voilure et fermer certains centres d'accueil dédiés. Ça vous inquiète, ça?
Je ne sais pas exactement de quelle proportion on parle, en fait. Donc, ce qui est évident, c'est que le pari que les autorités françaises avaient fait au début en disant il y aura des logements pour tout le monde, c'est un pari qui est difficilement gagnable parce que quand on ne travaille pas, on n'a pas les moyens de payer un logement. Et donc, il y a quand même encore beaucoup d'Ukrainiens qui sont soit dans des hébergements d'urgence collectifs qui ont été ouverts par les services de l'État, soit qui sont logés parce que aidés, en fait, par des familles, des amis, dans l'hébergement citoyen, où là, Ania nous parler d'un appartement qu'on lui prête. Enfin, c'est typiquement ce genre de situation. Donc, s'il y a des... j'ai pas forcément entendu ça dans les propos de la première ministre hier, mais s'il y avait une diminution très forte des hébergements, évidemment que ça nous inquiéterait. À ce stade, moi, j'ai plutôt, au contraire, le sentiment que les autorités françaises sont conscientes qu'il faut qu'on conserve un cadre d'hébergement collectif parce que, malheureusement, le conflit est loin d'être terminé et que la situation un peu précaire et intermédiaire des personnes pourrait se prolonger encore un certain temps.
Delphine Rouillot, vous restez avec nous. On poursuit cette émission riche de vos témoignages aux uns et aux autres. On va prendre Maureen au téléphone. Bonjour Maureen.
Bonjour, bonjour à tous et toutes.
Alors vous accueillez depuis le mois d'avril deux Ukrainiennes. Vous habitez à Dunkerque et vous aviez témoigné sur France Inter il y a quelques mois. Alors c'est pour ça qu'on s'est permis de vous rappeler. Comment se passe la cohabitation, Maureen?
La cohabitation se passe très bien. Ce sont deux dames d'une soixantaine d'années, toutes les deux, qui sont amies d'enfance. Et elles sont arrivées effectivement le 3 avril. On a la chance d'avoir une maison assez grande, parce que je pense que quand on héberge, il faut aussi avoir un peu de place pour que ça puisse durer. C'est vrai que beaucoup de gens ont hébergé peut-être dans l'urgence. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, pour les Ukrainiens comme pour les Français, je pense. Mais ici, ça se passe très très bien. Elles sont vraiment très respectueuses. Nous, on est aussi respectueux et de leur espace.
Oui, parce qu'il y a un problème d'intimité quand même qui se pose au quotidien.
Oui, tout à fait. De toute façon, l'une des dames, Tatiana, est au grenier. Enfin, c'est un grenier aménagé, donc ça fait une très grande chambre, pas qu'un studio. Mais elle partage sa salle de bain avec ma fille, qui est une adolescente. Donc c'est pas toujours simple. Et puis l'autre, donc Tatiana, qui elle est dans la chambre d'amis à côté de la mienne. Et on partage, nous, notre salle de bain avec cette dame. Mais ça se passe vraiment très bien. Mais je pense qu'il faut aussi respecter leur rythme, déjà ce qu'elles ont vécu. Et puis, elles ne mangent pas toujours aux mêmes horaires que nous. Moi, je sais que on fait les courses ensemble, elles ont accès au frigo, au placard, etc. Elles font ce qu'elles veulent. Et on prend certains de nos repas ensemble, d'autres pas, quand elles n'ont pas envie, qu'elles veulent manger plus tôt, qu'elles sont fatiguées. Et on est assez bien accompagnés d'une association qui s'appelle Dunkerque Ukraine sur Dunkerque, et qui leur propose aussi des accompagnements pour les papiers, parce qu'on a tout fait au départ, bien sûr, les papiers à la préfecture, etc.
Mais et ça devait être assez compliqué, j'imagine, les méandres de l'administration à ce moment-là, Maureen.
Ça s'est plutôt bien passé. Moi, je trouve que la préfecture de Lille nous a facilité les choses, et ça s'est vraiment passé le mieux qu'on puisse le dire, en fait. Bon. Et plus compliqué, c'est de trouver un logement, parce qu'elle souhaite être indépendante, et c'est ce que disait votre invité. C'est très compliqué parce qu'elles n'ont pas de salaire. Est-ce qu'elle est de la Croix-Rouge, de plein d'autres administratifs, mais c'est très compliqué.
Est-ce qu'elle travaille?
Alors, l'une des deux travaille en ligne et donne des cours de comptabilité et fait de la comptabilité aussi, ce qu'elle faisait déjà en Ukraine, mais elle a de moins en moins effectivement de clients vu la situation effectivement en Ukraine. Beaucoup de ses amis n'ont plus l'électricité souvent, etc. Donc elle a de moins en moins d'étudiants et son fils qui est resté en Ukraine a été lui mobilisé.
Oui.
Et l'autre dame en fait, alors elles étaient toutes les deux ingénieures dans le génie civil. Et l'autre dame en fait était très bonne couturière, donc elle est en train de créer sa boîte de couture pour faire des retouches, des choses comme ça.
Donc elle rebondit. Mais Delphine Rouillot, c'est rare cet exemple-là parce que la plupart des réfugiés se retrouvent souvent socialement déclassés.
Oui, tout à fait. Le déclassement, c'est quelque chose de très habituel, on va dire, malheureusement pour les réfugiés, et d'ailleurs les réfugiés d'Ukraine, mais tous les réfugiés, quel que soit le pays dont ils sont originaires. Il y a un double sujet, il y a la question de la langue, j'y reviens pas, on l'a dit, il y a la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui aussi est pas toujours évident, donc il y a des vrais enjeux de s'assurer que les diplômes sont bien reconnus, et puis de manière générale, quand on quitte son pays, on doit tout reconstruire, et donc très souvent, ça passe par des périodes plus ou moins longues de ce qu'on appelle de déclassification, déqualification.
L'État verse un dédommagement aux familles d'accueil, Delphine Rouillot.
Alors, l'État a annoncé à l'automne, je crois au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, commencer à verser une sorte de petit dédommagement de, je crois, 150 euros par mois pour les familles qui étaient hébergeuses, dans un contexte d'inflation qu'on connaît bien, hein, qui est destiné à un peu les soulager. Je ne saurais pas vous dire s'il y a beaucoup de familles qui en ont bénéficié, je ne suis pas certaine.
On va demander à Maureen. Ouais. Maureen, c'est votre cas ou pas?
Alors, pas du tout. J'ai fait toutes les démarches, mais à ce jour, rien n'a bougé. Et les familles d'accueil autour de moi, c'est idem, personne n'a rien reçu.
D'accord. Et, voilà. Et jusqu'à quand vous allez accueillir ces deux femmes, Maureen?
Il n'y a pas de délai. Je veux dire, on s'est engagé à les recevoir et jusqu'à ce qu'on leur trouve un logement indépendant. Mmh.
Jusqu'à ce qu'elles soient autonomes.
Tout à fait. Et le but, c'est de les accompagner le maximum dans ce but-là. Et elles prennent des cours de français assez intensifs, mais c'est vrai que c'est très très compliqué de passer du cyrillique au français.
Elles veulent s'intégrer, mais ou elles vous disent qu'elles veulent surtout rentrer chez elles, là?
Cette discussion, on l'a eue plusieurs fois. Ce jour, il y en a une des deux qui voudrait rester, donc celle Tetiana qui fait de la couture, parce qu'elle aimerait vraiment créer sa boîte et être autonome ici. Et je pense que l'autre dame dont le fils est en Ukraine souhaiterait rentrer.
Merci d'avoir témoigné, Maureen. On poursuit cette conversation pour évoquer cette fois les étudiants. Alors, il y a 2000 étudiants qui ont rejoint la France depuis un an. Bertrand Cosson, vous avez fondé dès le début de la guerre la Maison de l'Ukraine à la Cité Universitaire Internationale à Paris. Alors, pour ceux qui connaissent pas, dans cette cité, il y a plusieurs bâtiments qui regroupent chacun un pays et il n'y avait pas de Maison de l'Ukraine. Alors, vous en avez créé une virtuelle. Expliquez-nous.
Oui, alors évidemment, on ne pouvait pas faire sortir de terre une nouvelle maison du jour au lendemain. Alors, on s'est appuyé sur les 43 maisons de la cité et tous les personnels de la cité, toutes les équipes se sont mobilisés sous l'impulsion de Laurence Marion et Catherine Ménézomerer, qui étaient à la délégation générale et qui ont réussi à lancer de manière extrêmement rapide ce programme, grâce bien sûr à l'expertise de la cité, puisque la cité existe depuis presque 100 ans et elle a déjà une longue tradition d'accueil des étudiants et chercheurs réfugiés.
Ben, ça veut dire que vous avez poussé les murs pour les loger? Comment avez-vous fait concrètement?
Alors, on a la chance d'avoir 8000 places à la cité et on a fait un appel aux différentes maisons pour leur trouver de la place, effectivement, pour pouvoir les loger.
Et vous avez aussi réussi à récolter une jolie somme d'argent, 550 000 euros. Vous nous expliquez comment? C'est assez incroyable.
Alors, notre projet n'était pas seulement de les loger, mais de leur offrir un certain nombre d'activités, de services qui leur permettent d'être dans des conditions d'avoir un futur. Et donc, la première chose à laquelle on en pensait, c'est évidemment un soutien financier. Et pour cela, il fallait faire une collecte de fonds. Et donc, un appel aux dons a été lancé en faisant appel à Jean-Michel Villemotte, un célèbre architecte parisien, qui a créé une maquette, qui a créé des dessins pour cette maison de l'Ukraine, il y a eu une vente sous forme de NFT. Et puis, des dons.
NFT, c'est une œuvre numérique, en fait.
C'est une œuvre numérique, c'est ça. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir des mécènes, des donateurs, des particuliers qui ont fait confiance à ce projet et qui ont donné donc plus de 500 000 euros, ce qui nous permet de fournir une aide financière complémentaire aux aides de l'État, d'avoir pu renforcer notre service d'aide médico-psychologique, notre service social, puisqu'on a un service qui s'appelle le Relais Social International, qui est déjà bien ancré à la cité et qui aide les étudiants et chercheurs qui viennent à la cité de manière régulière.
Ça, c'est vraiment un plus. Que vous disent les étudiants, justement?
Alors, ils sont extrêmement reconnaissants, puisque quand ils arrivent à la cité, souvent, ils sont partis de chez eux sous les bombes. Ils n'ont pas réellement de projet quand ils arrivent. Et il a fallu reconstruire, les aider à se reconstruire, les aider à trouver une orientation. Et ça, j'en suis particulièrement sensible, puisque je suis professeur d'université. Et donc, nous avons organisé des journées d'orientation avec le service d'orientation de l'Université Paris-Cité. Et plus récemment, nous avons aussi lancé des actions de mentorat, notamment avec des académies de Paris, pour pouvoir les aider à trouver leur voie, à trouver une formation, puisque le système d'enseignement supérieur français est différent du système supérieur ukrainien, et il fallait que chacun trouve sa voie. Et donc, je suis assez contente de pouvoir vous dire aujourd'hui que que tous les étudiants ukrainiens accueillis à la cité sont aujourd'hui inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. Et c'est pas uniquement lié à nos actions d'orientation, mais c'est parce que l'État, les universités, les écoles franciliennes se sont organisées, ont poussé pour que ce soit possible.
Il y a une solidarité. Et les étudiants bénéficient eux aussi de l'aide aux demandeurs d'asile ?
Alors oui, ça c'est une question assez délicate puisque ils percevaient jusque-là l'allocation pour demandeurs d'asile, l'ADA.
C'est à peu près 14 euros par jour, je crois.
Alors oui, c'est entre 200 et 400 euros par mois. Ouais. Normalement, ce qui était prévu, et c'est ce que m'a expliqué notre correspondante de France Terre d'Asile, que normalement, ces 200 euros étaient donnés pour des personnes qui avaient accès à un logement par l'OFI, logement gratuit, et puis les 400 euros, c'était pour ceux qui devaient payer en plus un loyer. Et notre problématique aujourd'hui, c'est que ceux qui ont renouvelé leur protection temporaire récemment se sont aperçus qu'il y avait soit une réduction, soit une suppression totale de l'ADA, peut-être parce qu'ils avaient déjà reçu l'aide du CROUS. Mais vous savez, 200 ou 400 euros, 400 euros pour vivre à Paris en payant son logement, c'est tout à fait impossible. Donc nous sommes aujourd'hui très mobilisés pour essayer de voir s'il est possible que l'aide du CROUS, l'aide sociale pour les étudiants, puisse être cumulée avec l'ADA pour qu'ils aient un reste à vivre minimum, un reste à vivre décent.
Qui soit correct. Vous êtes au courant, Delphine Rouillot ?
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce que décrit Monsieur Cosson. Enfin, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vient de dire. C'est une réalité non seulement pour les étudiants, mais pour tous les réfugiés d'Ukraine. En fait, il faut comprendre que la protection temporaire, quand elle a été déclenchée, c'était un droit qui n'existait pas. Donc, les autorités ont un peu créé un droit ad hoc en quelques jours et quelques semaines. Et donc, effectivement, il y a des règles qui ont changé et des règles qui ont plutôt été amenées à diminuer, on va dire, et à réduire un petit peu le montant des aides accordées, ce qui peut être extrêmement problématique parce que on le disait, avec 400 euros par mois, on ne peut pas vivre, on ne peut pas louer un appartement. Mmh. Et donc, on a des personnes qui sont à la fois avec des droits qui leur permettent de travailler potentiellement, d'être un peu autonomes, mais en même temps des niveaux d'aide sociale qui sont inférieurs au RSA, notamment, qui est considéré en France comme le minimum nécessaire pour pouvoir prendre un logement social, etc. Donc, qui sont dans cette espèce d'entre-deux qui, de fait, ne leur permet pas l'autonomie. Mmh. Et pour les étudiants, c'est évidemment encore plus vrai.
Évidemment. Merci Delphine Rouillot. On va prendre un appel au standard. Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors écoutez, je vous téléphone de Cognac, plusieurs familles en Charente, absolument, où plusieurs familles d'Ukrainiens sont arrivées donc en avril 2022. Et assez rapidement, avec le soutien de la mairie de Cognac et un réseau associatif, nous nous sommes mobilisés, donc une petite dizaine de bénévoles, pour organiser des cours de français, à raison de 3 fois par semaine, auxquels 20-25 étudiants ont adhéré, et ukrainiens ont adhéré assez rapidement. Mmh. Il y avait parmi eux des personnes, de jeunes personnes étudiantes, des actifs, actifs en Ukraine, et il y avait des personnes plus âgées. Ces cours donc se sont prolongés, existent encore, ont toujours. Alors parmi eux, certains ont trouvé un emploi, d'autres donc sont étudiants et se posent effectivement ces questions. Peut-on intégrer un cycle universitaire en France? Mm-hmm. Et là, je voudrais saluer ce que Campus France a mis en place pour permettre à ces étudiants de passer un DELF A2 ou B1, B2 pour pouvoir effectivement intégrer une structure universitaire. Et ce programme, il y a un catalogue d'universités qui permet d'accueillir dans tout un tas de domaines et dans toutes les régions françaises donc des étudiants qui ont un niveau en français leur permettant. Donc c'est vrai que cette solidarité sur la langue est très importante puisque, comme on le disait tout à l'heure, passer de l'écriture cyrillique à l'écriture latine, c'est quand même
très compliqué. La barrière de la langue, effectivement, c'est quand même un énorme défi. Merci beaucoup d'avoir témoigné de l'aide avec ces cours de français que vous fournissez du côté de Cognac. J'aimerais parler rapidement à Marthe qui habite à Marseille. Bonjour Marthe.
Bonjour.
Vous accueillez depuis le mois de mars 3 Ukrainiennes, 3 générations de femmes qui vivent sous le même...
Une petite famille, effectivement. Une grand-mère, une mère et une petite fille de 6 ans.
Comment ça se passe?
Alors écoutez, ça se passe, on ne peut mieux. Le gros problème que nous ayons eu, c'est de gérer les repas, c'est-à-dire l'heure de prise des repas surtout, parce qu'il s'est avéré que je ne sais pas comment on fait en Ukraine, mais enfin, il n'y a pas d'heure pour prendre les repas. Alors, nous avons très vite...
Vous faites sourire, Ania.
Ah oui, c'est pas possible.
Non, mais ça m'amuse beaucoup parce que c'est... Pardon de vous interrompre, Marthe, mais c'est vrai. Adnia, qu'est-ce qui se passe? Ça fait deux fois qu'on a des témoignages qui nous expliquent que vous n'êtes pas calé sur nos horaires.
Et il faut savoir que le français, si on dit les clichés, la cuisine, c'est sacré, c'est important,
oui, vous avez
les
compris
heures.
Ça, oui.
Et comme on a deux filles, 10 ans, 7 ans, Ostap, mon fils, 6 ans, et quand Ostap veut manger, les filles, elles regardent les yeux ouverts. Mais comment il peut manger? C'est pas l'heure, c'est pas normal. Et donc, non, c'est vraiment ce que je disais, comme ces différences culturelles.
Bon, Marthe, les trois femmes que vous accueillez, bon, il y en a une, il y a une petite fille, mais les deux autres, elles travaillent ou pas?
Alors, dernièrement, la jeune femme de 26 ans, qui était lauréate d'un prix de graphisme en Ukraine, était promis un très bel avenir, a trouvé un emploi dans un atelier d'impression numérique, dans un grand atelier d'impression numérique à Marseille. Bien sûr, elle n'est pas employée au niveau de ses compétences.
Bien sûr, oui, c'est ça. Mais
voilà.
Mais au moins,
elle a
un travail.
Elle a un tout petit salaire.
Bon.
Bon, elle a un tout petit salaire. La grand-mère, nous lui avons trouvé quelques heures de ménage qui sont très correctement rétribuées. Mmh. Voilà. Donc, voilà.
Donc, elle travaille, elle s'en sort. Je suis désolée, Marthe, on n'a vraiment plus le temps. Merci d'avoir témoigné. Merci à vous tous d'avoir raconté votre quotidien. Comment vous accueillez ces gens? Comment vous vous sentez aussi en France? Et on comprend que c'est pas si simple tous les jours quand on a des nouvelles du pays. Merci, Anir, d'être venue témoigner. Merci merci à vous, Delphine Rouillot. Merci, Maureen. Marthe, donc, même si la conversation a été un peu écourtée, merci aussi à vous, Bertrand Cosson.
France Inter, le 13-14. Ukraine, 365 jours de guerre.
Le feuilleton de la semaine pour clore cette demi-heure spéciale Ukraine. Dernière étape à la gare de Fresnay, petit village du Massif des Morts au-dessus de Saint-Tropez. La municipalité accueille dans l'ancienne bibliothèque municipale une famille de 5 personnes. Artem, sa femme et leurs 3 enfants, toute la famille apprend le français. Aurélien Colli nous emmène à leur rencontre avec Katarina, interprète en russe de l'association Place Publique Kogolin.
Bon, allez, on va travailler. Allez, on commence. La météo, la date, donc. Vas-y.
Aujourd'hui, c'est mercredi 8 février. Météo.
Pour la météo, alors, il fait, j'ai commencé, qu'est-ce qu'il fait?
Il y a du soleil.
Du soleil, ça veut dire
qu'il fait beau. Il fait bon.
Ouais. Mais aussi, il fait froid. D'accord. C'est l'hiver. Alors, je m'appelle Sylvie Noble, je suis résidente à Gare de Fresnay depuis plus de 40 ans. J'ai été institutrice dans ce village. Donc, j'ai proposé de donner des cours de français à la famille que nous accueillons, d'Ukrainiens réfugiés. Et je trouve que leur assiduité, leur courage face à la tâche difficile d'apprendre la langue est remarquable. Les difficultés du français sont nombreuses, mais il y a des progrès très nets. Et les commerçants du village m'en parlent, me disent « Ah, ils parlent mieux quand même maintenant ». Donc, c'est satisfaisant. Et c'est donc nécessaire aussi bien pour le quotidien, pour ne pas rester isolé, mais aussi pour leur avenir immédiat, puisque l'avenir plus lointain, celui de la possibilité d'entrer dans leur pays, est très incertain. Allez. Aujourd'hui, j'ai prévu, on va reprendre un peu les verbes. Le verbe prendre. On commence par prendre.
Artem, est-ce que vous pouvez vous présenter en français?
Je m'appelle Artem, j'habite à français mars 22.
Vous êtes arrivé en mars 2022. On va continuer en russe. Vous avez quel âge, vous?
32.
J'ai 32 ans.
Je
ne suis pas mobilisable puisque je suis père de 3 enfants et tous les pères de 3 enfants ne font pas partie des mobilisables. L'intégration se passe très bien puisque ma femme et moi, nous nous débrouillons aujourd'hui tout seuls. On va au Pôle emploi, je me présente à l'entretien pour l'embauche tout seul, sans traducteur. Et d'ailleurs, j'ai obtenu une embauche, je commence le 1er mars.
Работа водителем развозить воду.
Je vais travailler comme chauffeur pour distribuer l'eau en bouteille au domicile, etc. des personnes.
Comment ça se passe avec les enfants? Ils sont scolarisés?
Сегодня, ну, они ходят.
Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Nos enfants vont avec plaisir à l'école. Ils se sont fait des amis. Ils comprennent assez bien déjà le français. Et donc, ça pose plus de problèmes de ce côté-là. Par contre, lorsque nous avons participé aux fêtes de Noël, aux feux d'artifice, lorsque les enfants ont entendu le bruit de tir, c'est là où ils se sont mis à pleurer puisque ça leur a rappelé ce qu'ils avaient vécu récemment en Ukraine.
Comment tu t'appelles, toi ?
Je m'appelle Svetoslav.
Tu as quel âge ?
6.
6 ans ?
Oui.
Comment ça se passe l'école ici pour toi ? Ça va ?
Oui.
Oui ?
Toute la classe a les amis.
Ah, toute la classe, c'est les amis ?
Oui. Ouais.
Comment vous voyez l'avenir ?
Aujourd'hui, je suis père de 3 enfants. Je suis responsable de mes enfants et partiellement de ma femme. Donc, si la guerre devait continuer longtemps, on rentrerait pas. Et en tant que père de famille, je veux pas exposer mes enfants à un retour traumatisant.
Reportage Aurélien Colli et Gaëtan Colli à la réalisation. Et Anya, qui était avec nous en studio il y a quelques minutes, tient absolument à dire merci à la France pour son accueil. Je lui avais promis. C'est fait. C'est la fin de ce 13-14. Lundi, vous retrouverez Bruno Duvic en direct du Salon de l'Agriculture France Inter. Il est 14h.
C'est une langue belle avec des mots super. Il porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent se prit dans une lame et qu'il en a gardé toutes les harmonies dans cette langue belle. Aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots. C'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si fécond, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks 5th worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and
social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@sympatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Et oui, Ciné Franco, 25 ans, et ça se fait tout au long de l'année, en ligne ou en salle. Restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco. Allez sur le site de cinéfranco.com et découvrez la diversité des cultures francophones. Ciné Franco, le plus important festival international de films francophones à Toronto depuis 1997. Soyez-y. Bonne fête à Ciné Franco. Ciao, ciao, ciao.
En Amérique, on peut entendre les langues autochtones.
L'anglais, l'espagnol, le portugais,
le créole
et évidemment le français. Comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée.
Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université?
On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals,
même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon.
Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants.
Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre.
On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie.
D'est en ouest, le français résonne.
Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole.
plus au sud, en Amérique latine. Savez-vous que le français est la deuxième langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones.
Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques. Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever.
Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'heure.
On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs.
Ensemble, communiquons,
vivons, travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques.
Nous sommes Québécois, Acadien,
Franco-Tico, Guadeloupéens,
Franco-Ontariens,
Mexicaliciens.
Nous sommes la francophonie.
Bonjour, je m'appelle Eddie King et je suis très heureux d'être le porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Préparez-vous à célébrer parce que cette année, les rendez-vous fêtent leur 25e anniversaire. C'est une année toute spéciale parce qu'on fête aussi le 10e anniversaire de la tournée Juste pour rire, dont je serai l'animateur. On en profite pour lancer le nouveau concours d'humoristes en herbe, les As du rire. Visitez dès maintenant le rvf.ca. Vous y trouverez les détails du concours et tout ce que les rendez-vous vous proposent, dont la programmation des activités spéciales qui se dérouleront du 1er au 31 mars.
Eh oui, laissez-vous tenter, préparez-vous, madame, monsieur, pour un mois de mars, un mois de la francophonie, au rythme du groupe mythique La Compagnie Créole, le 28 mars 2023, à l'Auditorium Saint-Frère-André, à 19h30, un concert unique, un événement de francophonie en fête. Tirage au sort, des billets, retrouvez les détails sur popourichaud.com. Et merci à Francophonie en fête et tous nos partenaires qui nous soutiennent. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de 3 heures dans le cadre du lancement du mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM à Toronto. Une émission réalisée en partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde, France Inter, Ciné Franco, l'AFA Toronto, le CREFO, les éditions Prise de Parole, le Festival Théâtre Communauté des Noirs à Montréal et la Société d'Histoire de Toronto. Le thème de cette année, célébration. L'ingénieur du son, DJ Devera et les DJ French Fuse. Production et animation, Eric Adair, qui vous accompagne depuis plus de 35 ans. Et pour nous écouter tout au long de l'année, madame, monsieur, une seule adresse, popourichaud.com. Chaque semaine, Popourichaud, www.cut.fm, vous propose un voyage à la découverte d'une initiative montrant le dynamisme, le caractère vivant et mondial de la langue française et de la francophonie. Du Québec au Sénégal, en passant par la Louisiane, Toronto, nos collaborateurs, chroniqueurs et médias partenaires vous présenteront des témoignages, des rencontres littéraires, des talents francophones en herbe, des artistes, des gens d'action, des voix, des sans-voix, des francophones engagés, exceptionnels, qui font des choses merveilleuses pour promouvoir la langue française dans tous ses accents et sa diversité. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires qui ont répondu à l'appel cette année, entre autres Ciné Franco, qui vous invite à célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain et vous donne rendez-vous à 19h le 8 mars au théâtre à Varsity, 55 rue Bloor Ouest, métro B ou Bloor et Yonge, avec le film Simone, le voyage du siècle. Un film qui nous amène dans la vie de cette grande dame française, son destin, son enfance, ses combats personnels, politiques, ses tragédies. Réservez vos billets sur cinéfranco.com. Deux paires de billets, je dis bien deux paires de billets pour les membres de la radio. Allez, écrivez-nous immédiatement popourri@cut.fm. L'équipe de Simone, le voyage du siècle, avec Elsa Zilberstein, Rebecca Mardar, Elodie Bouchèze et Olivier Darang. était sur France Inter lors du lancement du film l'année dernière. Soyez au rendez-vous vers 11h30, deux paires de billets donc pour le film Simone, le voyage du siècle, le 8 mars à 19h. Et on célèbre les francophonies tout au long du mois sur CUT 89,5 FM. Nous sommes très heureux d'accueillir un nouveau partenaire, l'ACFA Toronto, un organisme à but non lucratif contribuant à l'avancement des sciences au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. Ils organisent la toute première finale torontoise du concours Ma thèse en 180 secondes, le 21 mars prochain, dès 17h30 à Massey College, dans la Common Room. Cet événement s'inscrit également dans la Semaine de la francophonie de Toronto. On invite les étudiants de Toronto, des environs, à présenter leurs recherches de façon ludique et vulgarisée, de façon à démocratiser et diffuser les savoirs au sein de la communauté. Cet événement est organisé par un comité d'étudiants de la région et soutenu par l'ACFA Toronto. Allez, on vous invite à célébrer la relève en recherche de votre ville ou encourager les candidats de votre université à la toute première finale torontoise du concours Ma thèse en 180 secondes. Plus de 1 500 $ en prix seront remis durant la soirée. Le public sera invité à voter pour les meilleurs candidats. Retrouvez tous les détails sur notre site web popourichaud.com ou acfa.ca/acfa-toronto. Toronto. Et la 5e édition du festival Fête comme Noir se déroule jusqu'au 26 mars prochain à Montréal. L'invité d'honneur cette année, Gianni Laguerre, actrice, conteuse, danseuse, enseignante d'origine haïtienne qui vit dans la région de Toronto. Elle joue aussi de temps en temps au Théâtre français de Toronto et à des festivals de contes. Plus d'une vingtaine d'activités culturelles à disposer en plusieurs parties. Regard ailleurs à Jacmel, Haïti, qui se termine aujourd'hui le 5 mars. Un colloque sur le théâtre inclusif du 22 au 23 mars prochain. Et un grand concert à ne pas rater, madame, monsieur, hommage au fameux groupe Zéclé le 25 mars prochain. Ce sera au collège Ahuntsic, salle de spectacle du collège Ahuntsic à Montréal, cocktail dès 18h. Et le tout avec les membres du groupe. Et puis clôture du festival le 26 mars prochain avec la pièce Maman la mère. Gianni Laguerre, bien sûr, qui en est l'autrice, au Théâtre Rouge le 26 mars prochain. Allez découvrir la programmation complète sur compagnietheatracreole.ca ou popourichaud.com. Et ne manquez pas le prochain rendez-vous de la Société d'Histoire de Toronto. Muse, musique, amusement, avec la conférencière Dina Gontard, une passionnée de musique. Elle propose de nous aider à entendre, écouter, décoder et reconnaître des signatures musicales de divers effets. Eh oui, nous ferons des voyages dans le temps et modes musicaux différents. C'est prévu pour le mercredi 22 mars à 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 24 Spadina Road à Toronto. Tous les détails sur le site de l'Alliance Française ou sht.ca pour Société d'Histoire de Toronto ou encore popourichaud.com. Et dans le cadre du mois de la francophonie, Francophonie en fête vous invite à un spectacle mémorable où la joie contagieuse et la fête sans retenue occuperont toute la place. Et gagnez vos places pour le seul et l'unique concert de la Compagnie Créole à Toronto le 28 mars. La Compagnie Créole, groupe mythique et ambassadeur du soleil, vous y attend nombreux le 28 mars prochain à 19h30 à l'auditorium École Saint-Frère-André, 330 avenue Lansdowne, Toronto. Retrouvez tous les détails sur francophonieenfête.com ou popourichaud.com. Nous aurons un des membres en entrevue avant la fin de cette émission. Et puis nous irons faire un petit tour à l'île Maurice qui célèbre la fête de son indépendance le 12 mars prochain. Le groupe musical Blue Bay Band de Toronto vous invite à fêter une soirée mémorable autour d'un dîner typiquement mauricien le 11 mars prochain au Galaxy Grand Convention Center, 200 Advance Boulevard à Brampton. répondez s'il vous plaît via Eventbrite, c'est très important, ou allez sur notre site pour avoir toutes les infos, ou encore envoyer un courriel, un email si vous préférez, à info@bluebayben.com. Tous les détails sur popourichaud.com.
Francophonie, célébration. Et oui, notre partenaire spécialiste en spectacle et concerts au sein de la francophonie torontoise vous y attend nombreux au passage du groupe mythique, la Compagnie Créole, un groupe qui a bercé mon enfance. 40 ans après, ils sont toujours là. Le 28 mars à l'école Saint-Frère-André, 2 paires de billets pour les membres de la radio. Écrivez-moi immédiatement, popourri@cut.fm. Eh oui, puis nous irons faire un petit tour en Tunisie, membre de la francophonie. Les Noirs veulent remplacer les Arabes. Les déclarations du président tunisien Kais Saied à l'encontre des immigrants ou des migrants subsahariens continuent de faire réagir. Samedi à Tunis, des centaines de Tunisiens sont descendus dans la rue pour scander non au racisme. Mais face à des violences, certains migrants préfèrent rentrer dans leur pays. Puis en Italie, une autre tragédie près des côtes avec la mort d'une cinquantaine de réfugiés, dont un nouveau-né. Pourquoi certains risquent-ils leur vie jusqu'à la mort ? Le magazine L'Accent des Autres, rendez-vous hebdomadaire de l'actualité des radios francophones publiques, nous présente le chemin Roxham, voie de passage des migrants entre Québec et les États-Unis, qui finalement atterrissent en Ontario. On y revient sur le discours très virulent et controversé du président tunisien Kais Saied contre les migrants subsahariens. Et juste après, nous entendrons une des dernières chroniques de Linda Giger, notre correspondante TV5 Monde. L'humeur de Linda ayant pour thème la grève, sujet de l'heure en France pour contester les réformes des retraites. Place au magazine L'Accent des Autres, bon mois de la francophonie.
L'Accent des Autres est au rendez-vous comme chaque fin de semaine. Voici les grandes lignes de l'actualité de ces derniers jours avec les médias francophones publics. RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Bleu et la RTBF. Il va d'abord être question aujourd'hui de flux migratoires au Canada. L'arrivée de migrants par un passage de fortune entre le Québec et les États-Unis retient l'attention cette semaine, Fanny Sanson. Ils sont nombreux à passer par ce qu'on appelle le chemin Roxham.
Il y a un nombre record de demandeurs d'asile qui ont traversé le chemin Roxham l'an dernier, près de 40 000 personnes. C'est un point d'entrée non officiel qui est situé à environ une heure de Montréal. Cette semaine, le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé que ces migrants soient dirigés vers d'autres provinces.
À propos de migrants en Tunisie, cette fois, nous avons retenu ce discours très virulent du président Kais Saied contre les migrants subsahariens. Un discours, Nicolas Sûr, qui provoque une très vive inquiétude.
Oui, un discours sans précédent, proche de ceux des extrêmes droites européennes. Pour lui, l'émigration subsaharienne est un phénomène dont le but serait, selon ses termes, de transformer l'identité du pays.
La Fédération internationale de football, basée en Suisse, doit indemniser les travailleurs migrants qui ont contribué à l'organisation du récent mondial au Qatar. C'est ce que demandent plusieurs fédérations aujourd'hui, Pierre-Anne Chauffard.
10 fédérations européennes font monter la pression pour que la FIFA fasse sa part, mais elles craignent de ne pas être suivies par les autres continents de la planète football.
C'était il y a tout juste un an. Un ressortissant belge était arrêté en Iran. Il s'agit d'un humanitaire. Il s'appelle Olivier Van de Castel. L'homme a été injustement condamné par le régime iranien. Jacques Kremers.
Oui, condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage, un procès inéquitable. La Belgique tente d'obtenir sa libération alors qu'il souffre de graves problèmes de santé.
Enfin, nous reviendrons en France sur ce drame qui a ému tout le pays cette semaine. Une enseignante tuée par un adolescent dans une école de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques, Eric Valmire.
Une professeure d'espagnol poignardée par un de ses élèves devant une classe sidérée, une classe qui témoigne au micro de France Bleu Pays Basque, c'est glaçant.
Et voilà pour les titres de cette fin de semaine. Le Québec n'arrive plus à gérer les migrants qui arrivent par ce qu'on appelle le chemin Roxham. Ce chemin, ce point de passage non officiel, relie les États-Unis à la province canadienne. Le premier ministre québécois François Legault demande la fermeture de ce passage et Fanny, son offensive a pris une autre tournure cette semaine.
François Legault dit depuis un moment que la pression sur les services publics est intenable, que les conséquences sont nombreuses. Dimanche, il s'est d'abord adressé à Justin Trudeau dans une lettre pour demander de rediriger ses migrants vers d'autres provinces. Ensuite, François Legault a publié une lettre ouverte dans le Globe and Mail. C'est l'un des journaux les plus lus au Canada anglais.
Et alors, après la publication de cette lettre, le premier ministre s'est trouvé un allié au Canada anglais.
Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a ensuite lancé un ultimatum au premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il lui donne 30 jours pour fermer le chemin Roxham. Justin Trudeau répond depuis des mois qu'il doit revoir l'entente sur les tiers pays sûrs avec le président américain Joe Biden pour trouver une solution. Mais le chef de l'opposition officielle répond que ce n'est pas nécessaire et que le Canada peut gérer ses frontières.
Alors expliquez-nous, Fanny, qu'est-ce que l'entente sur les tiers pays sûrs?
L'entente sur les tiers pays sûrs oblige le Canada à refuser un réfugié qui se présente à un poste frontalier canadien s'il a déjà foulé le sol américain. La demande d'asile doit être traitée dans le premier lieu sûr où il est arrivé, ce qui veut dire que ceux qui préfèrent demander l'asile au Canada peuvent le faire en traversant par des passages de fortune comme le chemin Roxham. Ils sont par la suite interceptés par les autorités et après leur demande d'asile peut finalement être traitée. Donc Justin Trudeau dit que cette entente doit être renégociée avec les États-Unis et il dit que c'est une priorité, que ce sera à l'ordre du jour lors de la visite officielle du président américain Joe Biden au Canada le mois prochain.
Il va encore être question de migration en Tunisie cette fois. Le président Kais Saied s'en est pris violemment cette semaine aux migrants subsahariens. C'était au cours d'une réunion de son Conseil national de sécurité. Des déclarations, Nicolas, qui plongent les émigrés africains de Tunisie dans la peur.
L'arrivée en Tunisie de ce que Kais Saied appelle les masses incontrôlées venues du Sud a selon lui un objectif, arracher le pays aux nations arabo-musulmanes. Le président a dénoncé une entreprise criminelle destinée à changer la composition démographique de la Tunisie. Il a accusé des partis, sans préciser lesquels, d'avoir reçu une grosse somme d'argent après la révolution de 2011 pour installer les migrants subsahariens dans le pays. Une rhétorique du grand remplacement sans précédent en Tunisie. Kais Saied veut-il créer un ennemi intérieur alors que le pays se débat dans une grave crise économique et politique? Les commentateurs s'interrogent. Ils notent aussi que cette diatribe survient moins d'un mois après la visite du ministre italien des Affaires étrangères qui avait promis d'accueillir davantage de main-d'œuvre africaine si et seulement si la Tunisie s'engageait, je le cite, à réduire l'immigration irrégulière.
Et donc ces propos sèment la peur chez les émigrés subsahariens.
Oui, à Tunis, plusieurs témoignages font état de migrants et étudiants subsahariens qui se font expulser de chez eux, d'autres d'arrestations arbitraires. En réponse à ce climat haineux qui se déchaîne aussi sur les réseaux sociaux, la société civile tunisienne a décidé d'organiser ce samedi une manifestation contre le racisme.
Enfin, nous allons revenir un instant sur cette affaire qui a secoué la France entière cette semaine. Une professeure d'espagnol tuée par un de ses élèves dans un établissement de Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque. Le jeune homme âgé de 16 ans a été interpellé et mis en examen pour assassinat. Il avait dissimulé un couteau dans du sopalin, dans de l'essuie-tout. Tout le monde, Eric, parle d'un élève posé et calme au moment des faits.
Il s'est levé avec un sopalin. Est allé fermer la porte à clé, personne n'a compris. Il a sorti alors une lame de 18 cm du sopalin et a poignardé l'enseignante devant une classe sidérée. Oyana Lazarbal de France Bleu Pays Basque avec les élèves.
Les élèves, beaucoup étaient en larmes lorsqu'ils sont sortis du lycée à midi après avoir passé 2 heures en classe, les volets fermés. L'information avait circulé ainsi que la photo de l'auteur présumé, un jeune de 16 ans scolarisé en seconde.
Je suis choquée. Normalement, il est censé être dans ma classe, donc ça me choque un peu parce que une demi-heure avant, il était avec moi en cours et ça veut dire qu'il avait un couteau sur lui. Enfin, j'étais assise pas loin de lui et tout, donc...
Inès, elle, était dans la classe lorsque le pire est arrivé.
J'étais en cours d'espagnol, tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et plante un grand couteau à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme. Je ne savais pas comment réagir, donc jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui ait ouvert la porte qui était au fond de la classe, qui communiquait avec la classe d'à côté. Donc on a tous couru, on s'est tous enfuis.
Les élèves ont du mal à réaliser, du mal à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi leur camarade s'en est pris à cette enseignante.
Jamais j'aurais cru qu'il aurait pu faire ça parce qu'il n'avait pas l'air d'être méchant comme ça.
Il avait l'air un peu plus différent, mais dans le sens gentil, un peu foufou j'ai envie de dire, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait été à ce niveau-là. C'était ma prof d'espagnol et ça me fait quelque chose de savoir que je pourrais plus l'avoir.
Évidemment, un suivi psychologique est décrété pour chacun de ces élèves. Le temps qui passe n'efface pas un tel traumatisme et les images vont rester longtemps dans les têtes.
Éric Valmire qui va refermer l'accent des autres pour France Bleu cette semaine. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, le week-end prochain. Les médias francophones publics vous souhaitent une excellente fin de semaine.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Bonsoir Linda.
Bonsoir.
Ça vous va ou pas, demoiselle? J'ai pris le risque. Hein.
Bonsoir, demoiselle.
Absolument,
on va dire,
je l'attendais celle-là. Comment allez-vous?
Bah bien, et vous, ça
très
va
bien.
C'est pas trop compliqué là pour vous, ces grèves à répétition, ces manifestations contre la réforme des retraites? On s'adapte, mais vous savez
et
que ça va.
Parle.
Apparemment, c'est loin d'être fini.
Ah
hein.
Bon mm-hmm.
Ben, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez gréver dans la suite du mouvement?
Gréver.
Gréver. G-R-E accent aigu, V-E-R.
La première fois que j'entends.
Faire la grève.
D'accord.
Ah ouais? Rien à voir avec grever. Attention, grever sans accent, comme dans grever sans budget, s'imposer une dépense trop lourde. Non, gréver, c'est un mot qui n'existe pas encore dans les dictionnaires officiels, mais qu'on entend de plus en plus souvent, qu'on lit sur Internet, par exemple, dans les commentaires. Comme celui de ce lecteur qui dit « Entre les vieux qui veulent pas travailler, les jeunes qui sont fatigués avant de commencer, j'ai l'impression que personne ne veut plus bosser. Par contre, ils veulent tous gréver. » Alors non, pas tous, monsieur, si je peux me permettre, parce que dans les filières scientifiques de l'éducation, on ne peut pas gréver, déplore un étudiant, parce que nos profs sont sérieux. On a eu des cours de physique, de mathématiques, de SVT, de sciences aujourd'hui. Tous les profs sont arrivés. Donc, gréver ou ne pas gréver, moi, je me mêle pas de politique. Hein, ce qui m'intéresse, ce sont les mots et leur sens. J'ai aussi appris, Mohamed, que gréver n'est pas un mot nouveau.
Ah.
C'est un mot africain.
D'accord.
Oui, ce sont les Africains qui l'ont inventé il y a bien longtemps. Et c'est un mot qu'ils utilisent couramment. Mais regardez le titre que j'ai trouvé dans un journal togolais. Voilà, gréver pour gréver. Ne sert à rien. Vous savez, les Africains ont l'habitude d'inventer des verbes. Ce sont les champions en la matière. Je pense à siester, cadoter, ambiancer. Souvenez-vous du magnifique vendredi, né pendant les manifestations du Irak, les vendredis en Algérie. Vendredi, c'est manifester joyeusement et pacifiquement pour faire chuter un régime. Le verbe « vendredi » a aujourd'hui sa place dans le dictionnaire Larousse.
Ah, quand même.
Ce qui est génial avec ces verbes, c'est qu'on les comprend pratiquement automatiquement. Quoi. Regardez ce que les internautes m'ont envoyé, Mohamed.
Drogue battée, non, ça c'est une colle pour moi. Moi j'allais dire dribbler, ouais,
Drogue battée.
Marquer un but.
Ouais, c'est ça, bravo, en référence à Didier Drogba, bien sûr, le footballeur ivoirien. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'on utilise ce verbe « drogue battée ». Moins flatteur, le verbe « macroner », avec un ou deux M, on voit les deux. Alors, macroner, c'est être un beau parleur, se montrer inquiet, mais ne rien faire. Macroner, c'est rouler quelqu'un et le tromper. Ce sont les Ukrainiens qui ont popularisé cette expression pendant la visite d'Emmanuel Macron à Kiev, il y a une dizaine de mois. Les Ukrainiens, à l'époque, lui reprochaient de ne pas tenir ses promesses dans le conflit. Reste à espérer qu'avec sa réforme des retraites, le président français ne soit pas en train de macroner les Français. Il risquerait, dans ce cas, de les voir gréver encore, encore et encore gréver.
Merci beaucoup, Linda, de nous avoir parlé du mot gréver. En ce jour de grève, donc, en France, contre la réforme des retraites. Bonne soirée à vous.
Merci.
Rappelez-nous qui est-ce nous, yeah.
poésie qui page un petit pied.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France, c'est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie France en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez. Si vous songez un jour, vous installez dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc est un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourichaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourichaud et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Cime Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourichaud.com, 25 ans, ça se fête. Mois de mars, mois de la francophonie. Et le thème de cette année, célébration. Tout au long du mois de mars, Popourri Show et ses partenaires vous invitent à un voyage sur les 5 continents. Retrouvez le calendrier des événements, des activités du mois de nos partenaires sur www.popourrishow.com. Mois de mars, mois de la francophonie. Et pour la Journée internationale de la femme et le mois de la francophonie, Ciné Franco, notre partenaire, est fier de vous offrir le film Simone, le voyage du siècle. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste qui nous rappelle qu'il est plus que jamais essentiel de s'indigner. C'est le 8 mars à 19h au Varsity Theatre de Toronto. Les billets sont disponibles sur cinéfranco.com. Et Cinéfranco offre 2 paires de billets aux membres de la radio. Mille merci. Tirage au sort dès demain. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Ce long métrage a signé Olivier Dahan, qui en 2008 avait réalisé un autre film biographique, La Môme, vous vous souvenez, consacré à la vie d'Édith Piaf, était sur France Inter au mois d'octobre 2022 pour le lancement de ce film. Il était accompagné de Rebecca Marder, qui incarne la jeune Simone Veil. Bouleversante dans Simone, le voyage du siècle, biopic signé Olivier Dahan, à Toronto, présenté par Ciné Franco, le 8 mars au Varsity Theatre, coin Blue Orebe, dans le cadre de la Journée internationale des femmes et le mois de la francophonie. 2 paires de billets aux chanceux de la radio. Allez, écrivez-moi immédiatement, popourri@cut.fm. Et voici l'animateur vedette de France Inter, Nagui, et ses invités. Nos vœux les plus sincères à toutes les femmes du monde, les femmes courageuses, les femmes militantes, pour une société équitable. Bande annonce, Simone, le voyage du siècle.
Vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît.
Quand vous voulez.
Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
Simone!
Papier!
Nous sommes faits de ce qui nous a précédés.
Vos papiers.
Et pour partie, nous engageons l'avenir.
Pourquoi il m'attaque comme ça?
Il ne supporte pas ce que tu représentes.
Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres? Et résister ainsi à tout retour du totalitarisme.
Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer.
Ma chérie, viens, viens.
On n'est plus là-bas, Simone. On est revenu.
Je suis fière de toi.
Et maman serait fière de toi.
L'espoir.
Je félicite Madame Veil pour son élection.
C'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie.
Votre travail, Madame Veil.
Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation.
Le FN veut mettre le bordel, il faut partir.
Je reste.
Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous.
J'avais ton âge. Tous les jours, je vois mon nom. C'est ma force. Mes combats, c'est elle. Pour elle.
C'est la bonne journée. Avec Leïla Kadour-Boudadi, avec Tristan Lopin, avec ton
Andy Passureau, avec Daniel Morin.
Bonjour.
Et avec un petit nouveau, Ayoub Marceau. Et nos invités, Rebecca Marder et Olivier Dahan. Oh, la double chute, j'adore.
Très masculin ce plateau, non?
C'est trop masculin. Ouais. Il y a un moment, il faudrait qu'il y ait plus de filles. Mmh, mais il a fait quelque chose, écoute.
Oui, oui, je fais quelque chose.
Qu'est-ce qui fait le planning de l'émission, là? Parce qu'il y a un vrai problème, quand même.
Ouais, ouais.
Je crois que c'est Jean-Baptiste Pétain, le rédacteur en chef.
Il y a des gens à licencier rapidement, je pense.
Moi, je pense que d'ici vendredi, il faut se rattraper. Il faut qu'il y ait une émission.
Vendredi, ce serait bien.
100% féminine.
Ouais, ça serait bien. Bah non, bah non, 100%. Et qu'on fait quoi?
Ah, bah oui, bah on fait d'ici là. Ça nous laisse quelques jours pour s'organiser.
Le cinéma, on aime et on y retourne toute la journée sur France Inter. On vous le dit, mais nous, régulièrement, cette émission, toute l'année, on vous dit à quel point on aime le cinéma. Et on va en parler encore mieux de ce cinéma que l'on aime avec Simone, le voyage du siècle, le nouveau Olivier Dahan, avec Rebecca Marder, qui est notre invitée, qui sont nos invités d'ailleurs, Olivier et Rebecca. On va parler de ce film. Alors, merci Rebecca Marder et Olivier Dahan.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kaddour.
Je te jure.
Rebecca, bienvenue. Ça fait tellement plaisir de vous avoir régulièrement dans cette émission. On s'habitue.
Sociétaire.
On s'habitue. Olivier Dahan, c'est la première fois, non pas qu'on se rencontre tous les deux, mais que vous venez dans la bande originale.
Ben, merci.
On est ravis. Ben non, ça ne dépend que de vous, Vous,
bonjour.
Faites plus souvent des films et venez.
Ah, pas tant, non.
Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Mais quel film, Simone, le voyage du siècle, un projet qui est né dans la volonté d'Elsa Ziberstein. Comment s'est passé?
Au tout départ, dans ma famille, en fait, il y avait pas mal de quelques personnes qui étaient disparues dans les camps, et donc j'ai grandi avec une famille un peu militante antiraciste mon père notamment bénévole social, choses comme ça. Donc je faisais des manifs moi quand j'avais 6-7 ans. Donc ça a laissé peut-être des traces. En tout cas, ça a laissé des photos que j'ai retrouvées.
Il y a la Ciotat. Il y a la Ciotat aussi en point commun avec.
En plus, mais ça arrive après, effectivement. Ouais. Effectivement, le passé, c'est les vacances d'été à la Ciotat. Et en fait, donc il y avait tout ce background, en fait, tout simplement. Et quand Elsa est venue me voir, et comme moi, en plus, j'avais envie de faire un troisième film qui soit un troisième portrait de femme après Piaf et Grâce de Monaco. Et je voulais que ce soit une femme politique. Tous ces
les étoiles se sont alignées. Ouais. Vous interprétez Rebecca Simone Veil, j'ai envie de dire aux côtés d'Elsa Ziberstein. Chacune a une période différente de la vie. Vous êtes absolument remarquable et formidable. On vous l'a déjà dit, on vous le répète, formidable actrice. Mais ce film est à plus d'un titre émouvant, impactant. Et puis en plus symboliser cette journée où on dit, où France Inter encourage tout le monde à retourner au cinéma ou à continuer d'y aller, parce que certains continuent d'y aller, nous les premiers. Revenons donc à Simone, le voyage du siècle. Ce voyage, on est dans... il aurait pu y avoir d'autres baselines autour de Simone Veil, évidemment, et je pense notamment à ses combats et à la manière de résister, parce que finalement, évidemment, je récupère la résistance au sens historique du terme, mais c'est une femme qui a passé son temps à résister.
Oui, effectivement, parce que dans une époque où en plus c'était encore plus difficile en tant que femme qu'aujourd'hui, en fait, oui, que ce soit son côté féministe, qui est effectivement... Le féminisme, c'est de la résistance en réalité. Mm-hmm. C'est une résistance à une oppression. Donc c'est de fait inclus dans tous ces combats, quelque part, en tant que femme, dans l'époque où c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Parce que je pense que ça reste
compliqué aujourd'hui. Oui, que ce soit pour ses études, que ce soit pour son métier, que ce soit pour
tout, en fait.
Les lois qu'elle faisait passer, pour tout ce qui n'était pas concevable.
Bien entendu. Et tous ces combats, après, effectivement, ces combats, ils viennent, je pense, de sa petite enfance aussi. Mmh. C'est pas seulement la tragédie de la Shoah qui va l'aiguiser. C'est également sa manière d'avoir grandi avec sa mère et son éducation.
Elle est présentée comme une enfant comme ça, qui a une forte tête, qui est dure.
Elle est déjà comme ça, en fait.
Elle est déjà comme ça.
À 8-10 ans, elle est déjà comme ça. C'est ça qui est fort, en fait, aussi.
Pour préparer ce film, il faut se documenter, il faut voir des heures et des heures d'archives, d'interviews. Rebecca Marder, comment on se prépare à porter un rôle avec
telle densité.
Une telle densité, puis surtout des personnes, beaucoup de personnes vont aller au cinéma, l'ont connu, l'ont rencontré, ou ont vécu ces années, ces discours à l'Assemblée nationale, ou ces interviews. Donc comment s'emparer d'un tel poids?
Ah oui.
Oui, oui, c'est sûr qu'on se prépare.
Il y a du boulot, forcément.
Quand j'ai appris, après avoir passé une audition, quand j'ai appris qu'Olivier Dahan m'offrait sa confiance comme ça, je me suis dit, bon, il faut que je sois à la hauteur du personnage. Donc, bien sûr, on est à la fois fou de joie et en même temps pressurisé par cette envie d'être à la hauteur du personnage. Donc bien sûr on a beaucoup échangé avec Olivier, mais c'était comme un échange de documentation en fait. Et puis ensuite moi j'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait à lire autour de la figure de Simone Veil, que ce soit ses propres écrits autobiographiques, les textes de loi, mais aussi les livres écrits par d'autres, la journaliste Annick Cogent, ouais. Dominique Messica sur ses sœurs, enfin beaucoup d'ouvrages, quelques albums de famille. Mais en effet, comme j'incarne Simone sur une période de sa vie qui est peut-être un peu moins légendaire ou en tout cas médiatisée.
Moins public, moins filmé, voilà, moins diffusé. Ouais.
Ouais. Moins de photos, moins de témoignages audio, vidéo. J'avais en effet moins de traces, mais en même temps, j'ai quand même passé des heures sur Ina.fr à observer à quel point son regard si profond et qui est à la fois entre les vivants et les morts qui vous transperce comme ça, les sourcils qui sont presque quasi immobiles contrairement à moi qui fait 15 mimiques à la seconde, beaucoup trop, et puis une labiale très fermée. Olivier m'avait demandé d'écouter sa voix plusieurs heures par jour durant les mois qui ont précédé le tournage, donc voilà, c'était une préparation comme ça, mais en fait je crois que Olivier Dahan ne tenait pas forcément à ce qu'on soit dans un travail d'imitation.
En tout cas, c'est plus le cas
de mimétisme. Il s'agissait de lui rendre hommage, de rester le plus fidèle possible
à elle.
C'est
le cas de l'image d'Elsa Zieberstein où là,
Elsa a fait un vrai travail très minutieux avec des orthophonistes, tout ça. Mais je crois qu'Olivier tenait.
Mais le plus important, à un moment donné, de toute façon, il faut faire ce travail de documentation, évidemment. Après le travail de recherche, il y a surtout aussi. Moi, c'est ça qui m'importe le plus sur le plateau, c'est que les comédiens, tous, les comédiennes, bien sûr, qui jouent Simone, puissent laisser leur intuition personnelle totalement prendre le dessus.
Et se laisser envahir par l'émotion. Il y a des scènes et on salue la prestation d'Élodie Bouchèze aussi, qui est absolument bouleversante dans le film. Formidable actrice. Judith Chemla et vous et Élodie, il y a des scènes comme ça à trois qui sont totalement bouleversantes dans les camps de concentration. Et on voit bien que là, on n'est pas dans l'interprétation d'une scène écrite. On est dans vivre
le moment.
Vivre le moment et se remettre peut-être, si c'est imaginable d'ailleurs, à la place de ceux qui ont subi ces déportations et ces camps.
Se mettre à la place, je pense que c'est pas de l'ordre du possible. Par contre, il s'agit pas non plus de ça. C'est pour ça que je disais que l'intuition et le ressenti de chacun quand on joue. Il faut que ça soit le plus vrai possible. Et pour que ça soit le plus vrai possible, il faut à un moment donné être documenté, puis oublier. Mmh. Et être soi-même, c'est-à-dire soi-même, sa propre personne, avec son background, qu'il soit ça ou le reste, peu importe, que ça soit, parce que je pense que les émotions humaines, elles sont partageables par tous, et les comédiens et les comédiennes sont les plus à même de faire ça.
Ce qu'ont vécu tous les déportés était totalement inimaginable. Mm-hmm. De le revoir, ça continue d'être bouleversant. Il y a une scène qui est aussi totalement bouleversante, c'est de retourner dans les camps totalement vides. C'est-à-dire que évidemment c'est bouleversant d'avoir les images de la déportation, d'avoir ces images de la violence de ces capos qui viennent frapper, martyriser, exploiter, déshabiller, violenter les prisonniers, ces images qu'on a beaucoup entendues des fours crématoires à côté des camps, en se demandant à quel moment on va venir me chercher, si je vais passer de l'autre côté ou pas, si je vais être sauvé ou non par quelqu'un.
Ce qui était intéressant, je trouvais, avec le sujet là de Simone Veil, c'est que souvent on va avoir un film, et même si le film est vachement bien, comment dire, sur ce sujet, avec des personnages qu'on ne connaît pas. Là, il se trouve que c'est l'expérience avec quelqu'un que toute la France connaît, en fait. Ça change la donne, je pense, de regarder ces images, comment dire, ces événements-là, à travers les gens que tous les Français ont vus, dans toute autre situation, évidemment. Et de l'imaginer, donc, comme on peut l'imaginer quand on la voyait en 75, 74, en train de défendre des choses, et de l'imaginer dans ces camps, et de la voir, puisque c'est la force d'un film, ça change la donne, ça peut peut-être changer aussi la façon de regarder les choses quant à ces événements.
Ouais, et ce film a cette vertu-là. C'est vrai qu'en termes de réception, à partir du moment où cette figure de Simone Veil qui est rentrée au Panthéon il n'y a pas longtemps, dont on a entendu parler récemment dans l'actualité, pour ceux qui connaissent pas, c'est super jeunes. Pour découvrir vraiment.
Mais tout le monde a entendu le nom de Simone Veil.
Simone Veil, tout le monde l'a entendu. On a maintenant, on voit même sous forme de graphe, son visage apparaître sur des murs à Paris, dans toutes les villes de France. Mais cette vertu, c'est qu'en effet, on s'identifie à cette femme qu'on pense avoir un peu connue. On suit ses parcours et puis vous mettez aussi, on va y revenir, vous filmez les camps et ça, c'est quand même pas rien pour un réalisateur. Et puis aussi, surtout, moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris un truc essentiel, c'est qu'au retour des camps, on est dans le silence.
Oui, c'était la politique clairement de l'époque, c'était une politique.
Et on peut pas imaginer nous qui avons grandi cette génération avec le devoir de mémoire à l'école, d'en parler.
Non, il a fallu des
imaginer que on n'a rien dit.
Et que c'est pas que les gens n'ont rien dit, c'est que les gens étaient empêchés de parler, que ce soit dans le cercle familial, comme s'il en restait encore, mais en tout cas de manière parole publique, c'était quasiment de l'interdiction, quasiment. Donc ouais, je voulais montrer ça dans le film, effectivement, ce long.
Mais ça tue le silence.
Ces trois décades. Ouais. Où le silence était quasiment forcé, ou en tout cas totalement imposé, en tout cas.
Et où elle s'est battue pour toute forme de liberté, pour toute forme de respect.
De dignité humaine.
Et de dignité humaine, y compris quand ça se passait dans un autre contexte, notamment à la guerre d'Algérie.
C'était très important, j'avais vraiment envie d'écrire là-dessus.
C'est ça qui est impressionnant. Non, c'est ça qui est impressionnant, je trouve, c'est que à peine revenu des camps, parce qu'on peut pas raconter Simone Veil sans raconter la Shoah, et donc de le montrer, c'était important. Et bien sûr, c'est toujours délicat de toucher à ça et à cette période. C'est notre tragédie commune. Et je pense que ce qui est le plus impressionnant pour moi et le bouleversant dans son parcours et dans cette trajectoire, ce destin hors du commun, c'est de se dire comment une femme qui a vécu le pire de l'humanité garde foi en l'humanité, comment deux ans à peine après son retour de déportation, elle pense déjà à l'Europe, elle suit son mari en Allemagne pour ses fonctions, elle a des enfants, elle redonne la vie, elle se bat ensuite en tant que directrice de l'administration pénitentiaire, elle retourne en détention après avoir été prisonnière, elle se bat pour la dignité des femmes en prison, des prisonniers en Algérie. Enfin, je trouve ça incroyable, en fait, de se rendre compte à quel point l'espoir, et parce qu'en temps de crise on a besoin d'espoir.
Absolument.
Et j'ai l'impression que ça peut nous parler aujourd'hui.
L'espoir et la conviction.
Oui, et la conviction font qu'une femme avec aussi une force de vie un peu surdimensionnée. Moi, j'ai l'impression que c'est presque une surfemme, elle est comme descendue des cieux, quoi. Mais c'est quand même très impressionnant et inspirant. Enfin, en tout cas, elle nous lègue tellement de combats qui aujourd'hui sont...
On continuera de parler essentiel et qu'il ne faut pas oublier, surtout, parce qu'on peut avoir tendance à se dire...
C'est que l'histoire n'est qu'une
boucle. C'est passé, c'est fait, exactement. Dominique Missika sera tout à l'heure avec nous et justement, elle vous a aidé à la documentation ou à la réflexion autour du personnage dans le livre qu'elle a écrit, et elle viendra nous apporter aussi son éclairage et sa vision de Simone Veil, cette dame formidable qui donne ce film qui est j'ai presque envie de dire, à diffuser dans toutes les écoles, ou en tout cas à dire, non, les écoles, sortez, retournez au cinéma, allez voir le film.
Ça y est, t'as compris le principe de la journée spéciale.
Il faut y aller. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a cette notion de transmission, il y a cette notion évidemment de ne surtout jamais oublier, de savoir où on en est aujourd'hui et comment nous nous sommes construits sur tout ce passé. Ça, c'est essentiel. Mais aussi, il y a une vertu d'exemple, de se dire, quels que soient les événements que l'on peut affronter dans notre vie, comment se construire et comment grandir aussi. Oui. C'est pas que un film tourné vers le passé, mais je trouve qu'il a des vertus éducatives pour ceux qui le verront.
Et on va voir avec une vraie combattante.
Bien sûr, ça nous rappelle qu'en tant qu'humains, appartenant à la même planète et communauté des hommes, on est quand même tous responsables
du monde dans lequel on va vivre aussi et que l'on va transmettre à nos enfants. Elsa Zilberstein, Élodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet, je l'ai pas cité aussi, c'est l'homme de l'ombre.
Thoreton aussi.
Le rôle du mari de Simone Veil est essentiel, et son soutien aussi.
Avec ses fils qui jouent dans le film, c'est ça?
Non.
Ah non.
C'est marrant, je me suis dit que c'était ses fils.
C'était les vrais, non.
Je sais pas pourquoi il y avait un truc d'une familiarité. Oui. Je me suis dit, c'est eux. C'est
Qui joue bien.
C'est qui joue aussi bien.
J'ai l'impression que c'était eux.
Merci Rebecca Marder, merci Olivier Dahan, et bravo surtout. Et allez au cinéma voir Simone, donc ce film qui sort aujourd'hui.
Pour toutes celles que tu incarnes, je m'incline devant toi. Ton cœur est un océan. Courant doux amers. supporte l'humanité, supporte l'humanité. Le ciel et les étoiles sont nés de tes entrailles. Dans ton ventre repose le salut de nos âmes. De ta douceur, tu enveloppes toute la douleur du monde. Et quand tu te donnes, c'est pour notre absolution. Ta force mystérieuse s'étend à l'horizon. Tu fais danser la lune au rythme de tes saisons. Tu es le poteau central,
celui qui tient l'équilibre.
Ton amour est sans faille,
oui ton amour est libre.
Pour toutes celles que tu incarnes, je m'écoute devant toi. Ton cœur est un océan, au courant nous amène. Et dans chaque larme de tendresse et de joie, tu portes l'humanité, tu portes l'humanité, femme, tu portes l'humanité, tu portes l'humanité. Tu as forgé la clé des portails de l'univers. Tu détiens l'antidote pour sauver le genre humain. Et si tu étais un homme,
il serait une femme.
C'est toi qui es la somme
de l'équation vitale.
Oh, pour toutes celles que tu incarnes, je m'écroule devant toi. Ton cœur est un océan.
L'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Bonjour, je m'appelle Eddie King et je suis très heureux d'être le porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Préparez-vous à célébrer parce que cette année, les rendez-vous fêtent leur 25e anniversaire. C'est une année toute spéciale parce qu'on fête aussi le 10e anniversaire de la tournée Juste pour rire, dont je serai l'animateur. On en profite pour lancer le nouveau concours d'humoristes en herbe, les As du Rire. Visitez dès maintenant le rvf.ca. Vous y trouverez les détails du concours et tout ce que les rendez-vous vous proposent, dont la programmation des activités spéciales qui se dérouleront du 1er au 31 mars. Yeah.
Francophonie. Célébration. Et oui, notre partenaire spécialiste en spectacles et concerts au sein de la francophonie torontoise vous y attend nombreux au passage du groupe mythique, la Compagnie Créole, un groupe qui a bercé mon enfance. 40 ans après, ils sont toujours là. Le 28 mars à l'école Saint-Frère-André, 2 paires de billets pour les membres de la radio. Écrivez-moi immédiatement, popourri@cut.fr. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de 3 heures dans le cadre du lancement du mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM à Toronto. Une émission réalisée en partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde, France Inter, Ciné Franco, l'AFA Toronto, le CREFO, les éditions Prise de Parole, le Festival Théâtre à Communauté des Noirs à Montréal et la Société d'Histoire de Toronto. Le thème de cette année, célébration. L'ingénieur du son, DJ Devera et les DJ French Fuse. Production et animation, Eric Kader, qui vous accompagne depuis plus de 35 ans. Et pour nous écouter tout au long de l'année, madame, monsieur, une seule adresse, popourrichaud.com. Chaque semaine, popourrichaud, www.cut.fm, vous propose un voyage à la découverte d'une initiative montrant le dynamisme, le caractère vivant et mondial de la langue française et de la francophonie. Du Québec au Sénégal, en passant par la Louisiane, Toronto, nos collaborateurs, chroniqueurs et médias partenaires vous présenteront des témoignages, des rencontres littéraires, des talents francophones en herbe, des artistes, des gens d'action, des voix, des sans-voix, des francophones engagés, exceptionnels, qui font des choses merveilleuses pour promouvoir la langue française dans tous ses accents et sa diversité. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires qui ont répondu à l'appel cette année, entre autres Ciné Franco, qui vous invite à célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain et vous donne rendez-vous à 19h le 8 mars au théâtre à Varsity, 55 rue Bloor Ouest, métro B ou Bloor et Yang, avec le film Simone, le voyage du siècle. Un film qui nous amène dans la vie de cette grande dame française, son destin, son enfance, ses combats personnels, politiques, ses tragédies. Réservez vos billets sur cinéfranco.com. 2 paires de billets, je dis bien 2 paires de billets pour les membres de la radio. Allez, écrivez-nous immédiatement, popourri@cut.fm. Popourri Show, les voix du monde. Édition spéciale. Émission de lancement du mois de la francophonie sous le thème Célébration sur CUT 89,5 FM, la radio du campus universitaire de Toronto. 36 ans déjà. Contre vents et marées, pandémie ou pas, à la ville comme à la campagne, la radio vous accompagne. Merci de votre fidélité. Et oui, tout au long du mois de mars, TV5 Monde, RFI, CUT, FM s'interrogent sur l'avenir de la francophonie. Quel avenir pour la langue française au Canada? Pourra-t-elle survivre face au déclin démographique des francophones de souche? Est-ce que on ne devrait pas adopter des lois incitant les immigrants à se franciser? Où sommes-nous condamnés à devenir comme la Louisiane? Nous ferons escale au centre de la francophonie des Amériques. En attendant, nous attendons vos commentaires, vos réactions à popourri@cut.fm. Et oui, nous saluons tous les membres du CREFO et de l'ACFA Toronto, nouveaux partenaires qui nous invitent à célébrer la semaine de la francophonie avec la finale franco-torontoise du concours Ma Thèse en 180 secondes prévue pour le 21 mars dès 17h30 au collège Massé de l'Université de Toronto. Je trouve ce projet tellement innovateur. Des étudiants d'expression française des universités de Toronto et des environs auront 3 minutes top chrono dans un format ludique et dynamique pour vulgariser leur projet de recherche. Ah oui, en tout, 9 candidats de différents domaines présenteront leur recherche. Plus de 1 500 $ en prix aux heureux gagnants. Tout le monde est le bienvenu, famille, amis, professeurs, collègues, membres de la communauté. Des sandwichs, du café et du thé seront servis. Mardi 21 mars, dès 17h30 au collège Massé de l'Université de Toronto, c'est une première pour Toronto. Eh ouais, je vous invite à vous inscrire, madame, monsieur, et vous découvrirez les noms des candidats, candidates de la finale torontoise. Veuillez visiter acfa.ca/acfa-toronto ou tout simplement sur notre site popourichaud.com. L'ACFA s'entend déjà, un organisme à but non lucratif contribuant à l'avancement des sciences au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. L'ACFA Toronto, des activités accessibles à tous, un service de l'avancement des savoirs. Et un bonjour spécial à tous nos amis sur le continent, mais aussi dans les Antilles. Le monde a chaud, on en a besoin.
Le monde a chaud.
Eh oui, pour toutes les amies qui nous écoutent, madame, monsieur, dans les Antilles, bien le bonjour. Envoyez-nous du soleil, s'il vous plaît. Pour tout de suite, le point sur l'actualité haïtienne et des Amériques. Je vous rappelle que le 8 mars, nous célébrerons la Journée internationale des femmes. Et nous sommes heureux de voir ces jeunes femmes haïtiennes qui ont marqué l'histoire. Les grenadières, comme on les surnomme, ont obtenu le 22 février dernier l'une des 3 dernières places en jeu lors des barrages organisés en Nouvelle-Zélande, l'un des futurs pays hôtes du Mondial de foot féminin 2023. Bravo, félicitations. Bonne célébration au cœur de votre communauté et partout sur le continent, sur la planète. CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Allez, place au journal des Amériques et d'Haïti.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33. Sur RFI.
Haïti des Amériques, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 7h10 au Salvador. Nayib Bukele et sa très médiatique lutte contre les bandes criminelles. Le président du Salvador remplit sa méga prison construite pour enfermer les maras. Le long chemin vers l'intégration sera aux États-Unis aux côtés d'Afghans. Ils ont aidé l'armée américaine quand elle était déployée en Afghanistan. Ils sont revenus avec les militaires et ont bien du mal à s'adapter. Puis, à 19 ans, elle a offert à Haïti la qualification pour le prochain mondial de foot. La joueuse Melchi Dumornay sera notre invitée. Ce sera juste avant de vous retrouver, Benoît Ferrand, pour parler du retour de la dingue en Martinique.
Eh oui, comme les algues sargasses ou les impôts, elle est chaque année fidèle au rendez-vous. En fin de semaine dernière, 10 cas étaient d'ores et déjà confirmés.
Rendez-vous, Benoît, dans 15 minutes.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
La capitale haïtienne où la CARICOM, Elliott, déploie à compter de ce lundi une mission.
Oui, une délégation de la communauté des Caraïbes est attendue ce lundi à Port-au-Prince, selon le ministre des Affaires étrangères de Trinidad et Tobago. À l'agenda, la crise sécuritaire en Haïti, comment endiguer les violences? Selon le journal Juno 7, la délégation sera conduite par le premier ministre jamaïcain Andrew Holness. La Jamaïque est l'un des seuls pays, avec les Bahamas, à avoir proposé d'intervenir auprès des autorités haïtiennes pour lutter contre l'insécurité, prête notamment à participer militairement à la constitution d'une force internationale. Radio Télémétronome indique également qu'un émissaire du Canada, autre soutien du gouvernement, sera également présent dans cette délégation.
Cette dure crise haïtienne, merci beaucoup Elliott Brachet. Cette crise haïtienne que Melchi Dumornay est parvenue peut-être à faire oublier l'espace de quelques instants à ses concitoyens. À 19 ans seulement, c'est elle qui a propulsé l'équipe nationale féminine de foot au prochain mondial. On en a beaucoup parlé ici même la semaine dernière, les grenadières, comme on surnomme les haïtiennes, ont battu le Chili 2-0 en match barrage en Nouvelle-Zélande, l'un des futurs pays hôtes de la compétition. 2 buts donc signés Melchi Dumornay, la milieu de terrain qui joue en France, à Reims. Christiane Diremzian a pu la joindre à son retour de Nouvelle-Zélande. Elle nous parle de son avenir, d'Haïti et bien sûr de cette qualification pour la prochaine Coupe du Monde.
C'est une sensation exceptionnelle. On voulait marquer l'histoire en nous qualifiant, on l'a fait. On a rendu un rêve qui est devenu réalité pour nous parce que ça fait des années qu'on travaille, qu'on bosse, qu'on a souffert, on a pris des échecs, mais on a su apprendre pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc on est très fiers, on est très contentes de pouvoir écrire l'histoire en Haïti avec toutes mes coéquipières. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous et ça va nous marquer à jamais.
Vous avez dû obtenir cette qualification lors d'une finale de groupe face au Chili, de Christiane Endler, gardienne de l'OL. Comment vous aviez abordé ce match?
On a dit que c'était une finale, c'était notre carrière qui est en jeu, c'était tout le pays qui allait jouer contre le Chili. Je savais que c'est une équipe qui était plutôt coriace et qui aimait avoir le ballon. Nous, on avait des joueuses de bonne qualité dans notre équipe qui on peut jouer en compte. Donc, on les a laissés faire pour pouvoir exploiter au maximum les contre-attaques et aussi pouvoir être réaliste devant le but. J'ai été réaliste sur mes deux frappes et deux buts. Donc, je suis très contente d'avoir pu aider mon équipe parce qu'il y avait beaucoup de pression aux côtés de les Chiliennes qui nous poussaient à la fin de la deuxième période. Donc, on devait rester concentré. C'était vraiment passionnant. Donc, ce match, on l'a savouré parce que c'était un match vraiment compliqué pour nous.
On va parler un petit peu de vous, Melchi. En quelle année vous avez rejoint la sélection haïtienne?
Moi, j'ai rejoint la sélection à l'âge de 12 ans. J'ai participé au tournoi éliminatoire des mondes dissidents. J'ai fait mes débuts avec la catégorie mondes dissidents. Donc, c'était vraiment excitant. Et c'est quelque chose qui va me marquer à jamais de pouvoir faire ce début-là très jeune dans une équipe qui avait autant de talent.
Vous avez quitté Haïti assez tôt pour espérer vivre du football. Comment ça s'est passé? Vous avez commencé par des essais en France, à Lyon, je crois.
C'est ça, j'ai fait un essai à Lyon en 2018. Et malheureusement, les circonstances ne m'ont pas permis de rester là-bas. Et après, je suis retournée en Haïti en attendant que j'atteigne l'âge majeur pour revenir en France, j'espérais. Et je suis revenue en France avec des ambitions et des objectifs que je veux atteindre à ce grand championnat.
Melchi, malgré la situation très compliquée à Haïti, vous arrivez à rentrer de temps à autre dans l'île?
En ce moment, non, parce que c'est un peu très tendu là-bas. Et ma famille veut pas que j'aille aussi, donc c'est un peu risqué. Mais je reçois tout le soutien de toute ma famille, de toutes mes amies aussi, qui connaît la situation du pays, qui veut pas que je prenne le risque. Mais je serais très contente, très heureuse de retourner là-bas parce que c'est ma terre natale. C'est là que j'ai grandi avec mes amis et j'ai très envie de retourner et pouvoir les faire coucou à nouveau.
On imagine que le contexte ne se prête pas à la pratique facile du football dans l'île, mais vous sentez qu'il y a un potentiel pour les jeunes filles à pratiquer le football?
En Haïti, il y a beaucoup de talent. Malheureusement, le pays ne donne pas trop de possibilités à ce qu'on arrive vraiment à exprimer notre talent, mais les peu qui se sont sortis, vous pouvez le voir, il y en a plein de joueuses en France qui jouent, leur qualité parle d'elle-même. On est sortis d'un pays compliqué avec des objectifs personnels et aussi dans le but de pouvoir aider notre famille.
Vous avez des projets pour aider à la pratique et au développement du football sur place?
Effectivement, j'ai des projets à long terme, mais pour ça, ça va commencer par mes performances individuelles et collectives avec mes clubs et de pouvoir atteindre mes objectifs que je m'étais fixé pour pouvoir aider les autres. Avant d'aider les autres, il faut savoir être capable de se gérer soi-même, donc je vais d'abord me gérer moi-même et pouvoir donner la possibilité par des partenariats ou par d'autres moyens d'aider les autres jeunes en Haïti qui ont ce rêve. Donc, je suis prête à tout pour donner une meilleure moyen aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent.
Melchi Dumornay avec Christophe Diremzian, on le rappelle, hein, les Haïtiennes qui affronteront les Anglaises, championnes d'Europe pour le premier match de groupe. Ce sera lors de ce mondial, donc à Brisbane, le 22 juillet prochain.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Comme les algues sargasses ou les impôts, elles reviennent chaque année. Hélas, elles reviennent chaque année. C'est la dingue, Benoît. Il s'agit bien d'elles. Hein. Elle est de retour en Martinique.
Eh oui, en fin de semaine dernière, 13 cas avaient d'ores et déjà été confirmés dans la commune de Sainte-Anne. C'est à l'extrême sud de la Martinique. Reportage Bianca Carreto.
quartier Bellefond, à Sainte-Anne. Anne est arrivée de Normandie il y a un mois. Pendant ses vacances, elle a eu la mauvaise surprise d'attraper la dengue.
C'est brusque, d'un seul coup. La fièvre et puis malade, quoi, c'est tout. Enfin, pas faim, pas pouvoir manger, rien de tout.
Dans ce quartier, ils sont une dizaine à avoir contracté la dengue. Une dengue plus agressive que les années précédentes, selon le docteur Is Aluslon, médecin généraliste.
L'année dernière, j'en ai pas trop vu. L'année d'avant, j'en ai vu des dengues. Et je disais que les gens, c'était plutôt des syndromes grippaux assez importants. Et là, je trouve que les gens, ils sont rapidement, mais complètement, vraiment fatigués, HS. Ils savent pas, ils arrivent plus à marcher. Ils ont des maux de tête. Ils ont l'impression que... Il y a des touristes que j'ai vus qui m'ont dit, alors qu'ils viennent à la Martinique depuis 10, 20 ans, ils m'ont dit, plus jamais je reviendrai.
Les équipes du service de démoustication de la CTM sont intervenues dans des foyers actifs de la dengue. Certaines zones ont reçu des traitements larvicides. Des gîtes larvaires ont été supprimés, ce qui pourrait limiter le risque d'épidémie.
On change totalement de sujet avec cette déclaration dans la presse du PDG d'Air France KLM qui appelle à une consolidation du secteur aérien dans les Outre-mer. Une consolidation qui aurait plutôt comme un petit air de concentration. Explication Franck Aristide de la Première Guadeloupe.
Aujourd'hui, elles sont quatre à se partager ce marché ultramarin. Air France, Air Caraïbes et Corsair pour les Antilles. Air France, French Bee, filiale d'Air Caraïbes, Corsair et Air Austral pour la Réunion. Une situation qui n'est pas optimale pour le patron d'Air France. La consolidation qu'il prône pourrait prendre quatre formes. L'acquisition pure et simple, donc, d'une de ses compagnies. Ou alors une prise de participation minoritaire dans l'une d'entre elles. Une co-entreprise ou un simple accord commercial tel qu'il est existe déjà entre Air France et Air Austral à La Réunion pour la vente de sièges. Dans le cas où cette consolidation serait le rachat, c'est très probablement Corsair qui pourrait passer entre les mains d'Air France. C'est en effet elle qui se trouve aujourd'hui dans la situation financière la moins confortable. Le groupe Dubreuil, Air Caraïbes, French Bee, lui, se porte très bien. Quant à Air Austral, elle poursuit sa restructuration. Mais un tel choix, avec la baisse de la concurrence, pourrait, pour les passagers, encore entraîner une hausse des prix des billets.
Affaire à suivre. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Bonne journée à tous. Merci aux équipes de La Première. Merci à Hélène Avril aussi, qui était à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous pouvez nous réécouter, vous le savez bien sûr, sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Bonne journée à tous, à l'écoute de la Radio du Monde.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Bonjour. Bonjour. Je viens vous inviter. Laissez tout tomber. On va embarquer. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter.
Eh oui, bonjour, je viens vous inviter le 28 mars. Je vous donne rendez-vous avec Francophonie en fête, qui a marqué le coup en faisant venir pour la première fois à Toronto le groupe mythique des Antilles, la Compagnie Créole. Ils seront à l'auditorium de l'école Saint-Frère-André 330, avenue Lansdowne, à Toronto. Faites vite acheter vos billets maintenant en visitant le site francophonieenfête.com. francophonieenfête.com. Deux paires de billets pour les membres de la radio. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Ah, la Compagnie Créole fait danser petits et grands depuis 40 ans. J'ai grandi avec. Ce sera un spectacle mémorable où la joie contagieuse et la fête sans retenue prendront toute sa place. Allez, voici un court entretien avec la voix féminine de la formation Clémence Brinton, signée Radio-Canada. Allez, on se donne rendez-vous le 28 mars.
Vous êtes de retour au Québec avec votre groupe, la Compagnie Créole. Il y a une histoire d'amour entre vous et le Québec. Comment vous l'expliquez, cette histoire d'amour-là?
On ne l'explique pas, mais en tout cas, nous sommes ravis. Parce que ça fait 35 ans qu'on vient au Québec. Et chaque fois qu'on a l'opportunité de le faire, nous sommes comme des enfants excités à l'idée de venir rencontrer nos amis québécois. Ça a débuté par un téléthon, en fait, en 85. Et depuis, on est tombé en amour, voilà, avec les Québécois. Et ça dure et c'est super et nous sommes ravis.
La Compagnie Créole vient des Antilles. Vous êtes né en Martinique. José est né de la Guyane. Arthur en Guadeloupe. Mais vous êtes tous rencontrés à Paris. C'est bien ça?
Alors, moi, j'étais à Paris. J'étais étudiante à Paris. Je faisais mes études à Paris. Donc, je chantais un petit peu comme ça pour... comme les étudiants qui font des petits jobs. Mais les garçons se retrouvaient souvent dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Ils faisaient le bœuf ensemble. C'était pas du tout dans ma tête. Pour moi, je pensais pas du tout faire carrière dans la chanson. C'est quand même grave. C'est grave, c'est assez particulier comme histoire.
Vos plus gros succès, ça fait rire les oiseaux, vive le douanier Rousseau, Collé-Collé, ont été écrits par le tandem Daniel Vanguard, qui est français, et Jean Kruger.
Qui est belge.
Alors, comment ça s'est passé là, qu'on vous offre de tels grands succès? Là?
Mais oui, parce qu'en fait, Daniel et Jean étaient collaborateurs. Ils avaient déjà fait pas mal de chansons avant. Et même la chanson de douanier Rousseau, c'était pas du tout... ça n'avait pas été sur douanier Rousseau. Daniel voulait d'abord faire une chanson sur Picasso. Et il a eu des problèmes avec les droits, les ayants droit de ça. Et Fulgaire, un jour passé, il a vu un tableau très colorié avec des gens. Il a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un truc sur Daniel Rousseau? Et là, ça leur a donné l'idée. Et cette chanson, en fait, il a été créée parce qu'on avait demandé cette chanson pour la France, pour l'Eurovision. Donc, on a chanté cette chanson pour la sélection. Elle n'a pas été retenue. Et en même temps, c'était bien parce que ça a permis à Daniel Vanguard de sortir. C'est bon pour le moral.
C'est vrai que vous n'aimiez pas la chanson « C'est bon pour le moral » ?
Non, mais on trouvait ça nul.
Je crois pas ça du tout. Hein.
Si, mais si on n'accepte pas sur ça, moi je vais fusiller par le public.
Ah ben oui, non, mais ça c'est sûr. C'est bon pour le moral,
c'est bon pour le moral. Et l'album est sorti, Daniel Rousseau est sorti après. Et c'est le premier album de platine en France, et après ça a marché aussi au Québec. Voilà.
J'ai une question difficile. Je sais que chaque chanson est comme un enfant, mais vos préférés, ce sont lesquels?
Moi, j'aime bien Santa Maria de Guadeloupe. Et puis Le Noël, Le Bon Baiser de Fort de France, parce qu'en fait, c'est une chanson que Daniel a écrite. Quand je lui ai expliqué en fait qu'à Noël, quand j'ai découvert en France qu'il y a des gens qui restaient seuls, avec personne, je ne comprenais pas parce que chez nous aux Antilles, à Noël, c'est un moment où tout le monde se retrouve, où vous pouvez aller chez quelqu'un sans être invité.
Et on éteint la télé.
Voilà, on éteint la télé et on chante ensemble et pas besoin d'hésitation et c'est une vérité, c'est une réalité en fait.
Les musiciens de la Compagnie Créole ont tous plus de 70 ans. Et là, au cours des prochains jours, vous allez être dans le spectacle de Jeff Tendresse. Février 2023, grosse tournée au Québec. Comment vous vivez encore ça, la scène?
C'est sûr que, bon, je ne vais pas danser comme avant, parce que... mais les choses de danse à Naïe, je ne le ferai pas. Mais la musique me donne la pêche. Bon, José, c'est vrai, un petit peu fatigué parce qu'il a quand même suivi quelques opérations. Mais pour le moral, on a besoin du public. Et quand on est sur scène, il nous redonne la pêche et c'est extraordinaire.
Sur la vidéo de la chanson « Ma toute première begin partie », on voit une jeune fille. C'est votre fille,
oui.
À vous. Et semble-t-il qu'elle est prête à prendre la relève au sein de la compagnie créole.
C'est vrai? Oui, elle est avec nous, elle fait le cœur avec nous sur scène.
Ah oui, c'est bien quand même de chanter avec sa fille.
Tout à fait, c'était pas prévu. Parce qu'elle me dit toujours, je ne ferai jamais ce métier, il y a trop de stress. Alors donc elle a fait de la bonne médecine comme moi, elle a arrêté, elle a fait du droit, et finalement, et en faisant, elle venait en fait avec nous pour gagner un peu d'argent quand elle était étudiante, elle me servait d'habilleuse. Elle disait, je ne ferai jamais ce métier, il y a trop de stress, c'est trop stressant. Et finalement, elle a eu le virus aussi comme maman, et voilà, elle chante. Et son mari, c'est notre chef d'orchestre aussi.
Clément Brinktown, cette entrevue a été bonne pour le moral. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon, c'est bon, bon.
Proudly student and listener-supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca.
On a cherché un peu à décentraliser l'ACFAS. Donc, c'est ainsi qu'une série de sections là, se sont créées.
Surtout pour des chercheurs qui, comme moi, travaillons en français en Alberta, où c'est peut-être pas si naturel de le faire. On a besoin d'endroits comme ça, où là, vraiment, c'est célébrer la recherche en français. Ça donne une légitimité, ça donne une crédibilité.
Ça nous a permis quand même de mettre le logo. On n'était pas juste un petit groupe de chercheurs qui voulaient faire des choses en français, mais on pouvait s'affilier à une entité respectable, hein, qui était connue, qui avait de l'histoire.
Dans notre section, c'est la culture de la recherche, c'est la promotion de la recherche. On donne un espace.
Les chercheurs qui œuvrent en francophonie minoritaire le font souvent en isolement. Donc, le but premier avant toute forme d'activité, c'est de briser l'isolement.
On veut rejoindre autant les arts, les sciences humaines sociales, l'éducation et aussi les sciences, biologie, médecine, mathématiques.
L'ACFAS, c'était justement l'occasion pour moi de sortir de la santé et de reconnaître qu'il y a des chercheurs dans d'autres disciplines.
C'est le principal lieu de sociabilité savante francophone au Manitoba, l'ACFAS.
On a eu des conférences en astrophysique, sur le soleil. On a eu des conférences sur l'utilisation des plasmas, enfin en physique. On a eu des conférences en nutrition.
Le premier vendredi de chaque mois d'avril, on a la journée phare, la journée forte, qui est la journée des sciences et savoirs. Et au cours de cette journée, il y a des communications libres que peuvent faire à la fois les étudiants et étudiantes, mais aussi des collègues.
Alors, la journée du savoir, c'est l'occasion pour les étudiants de faire une première expérience de la communication scientifique.
L'événement de l'ACFAS général en miniature, en un jour.
Et donc, c'est ouvert à la communauté. Donc, on annonce toutes nos conférences et toutes nos activités à la communauté en entier.
Quand je pense à ma section, je pense à la relève. Je pense au fait que des étudiants qui ont pu présenter leurs recherches en français pour une première fois. Et quand je pense à ça, je pense à eux qui ont la chance de faire vivre leur langue et qui ont été dans les écoles d'immersion, les écoles francophones, mais je pense à leurs familles qui sont venues les voir.
L'ACFA, ça peut être un tremplin pour ces étudiants-là qui ont ensuite fait des maîtrises, doctorats.
Faire de la recherche en français ou juste faire vivre le français dans une province comme l'Alberta, c'est important. C'est important pour la relève, c'est important pour les nouveaux arrivants qui souhaitent s'intégrer à la francophonie. Donc, et c'est un geste politique. Parce que c'est facile de passer à l'anglais, surtout dans le domaine des sciences comme la biologie, c'est un impératif. Mais c'est possible également de montrer qu'il y a une vie en français.
On peut ensemble réfléchir en français sur nos activités.
La francophonie, elle est forte, elle est vivante, et c'est ce qu'on veut montrer avec la France.
Et la cinquième édition du festival Fêter comme Noir se déroule jusqu'au 26 mars prochain à Montréal. L'invité d'honneur cette année, Jani Laguerre, actrice, conteuse, danseuse, enseignante d'origine haïtienne qui vit dans la région de Toronto. Elle joue aussi de temps en temps au Théâtre français de Toronto et à des festivals de contes. Plus d'une vingtaine d'activités culturelles à disposer en plusieurs parties. Regard ailleurs à Jacmel, Haïti, qui se termine aujourd'hui, le 5 mars, un colloque sur le théâtre inclusif du 22 au 23 mars à prochain et un grand concert à ne pas rater, madame, monsieur, hommage au fameux groupe Zéclé le 25 mars à prochain. Ce sera au collège Ahuntsic, salle de spectacle du collège Ahuntsic à Montréal, cocktail dès 18h et le tout avec les membres du groupe. Et puis clôture du festival le 26 mars prochain avec la pièce Maman la mère, Jani Laguerre bien sûr qui en est l'autrice, au Théâtre Rouge le 26 mars prochain. Allez découvrir la programmation complète sur compagnietheatrecreole.ca ou popourichaud.com. Et ne manquez pas le prochain rendez-vous de la Société d'Histoire de Toronto. Muse, musique, amusement, avec la conférencière Dina Gontard, une passionnée de musique. Elle propose de nous aider à entendre, écouter, décoder et reconnaître des signatures musicales de divers effets. Eh oui, nous ferons des voyages dans le temps et modes musicaux différents. C'est prévu pour le mercredi 22 mars à 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 24 Spadina Road à Toronto. Tous les détails sur le site de l'Alliance Française ou sht.ca pour Société d'Histoire de Toronto ou encore popourichaud.com. Et puis nous irons faire un petit tour à l'île Maurice qui célèbre la fête de son indépendance le 12 mars prochain. Le groupe musical Blue Bay Band de Toronto vous invite à fêter une soirée mémorable autour d'un dîner typiquement mauricien le 11 mars prochain au Galaxy Grand Convention Center, 200 Advance Boulevard à Brampton. Répondez s'il vous plaît via Eventbrite, c'est très important, ou allez sur notre site pour avoir toutes les infos, ou encore envoyer un courriel, un email si vous préférez, à info@bluebayband.com. Tous les détails sur popourichaud.com. Mois de la francophonie sur le thème de célébration.
Créée en 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie compte 57 États et gouvernements membres et 23 États observateurs. Elle est présente sur tous les continents du globe et rassemble les francophones du monde entier, faisant de la langue française un lien. Un lien de paix par ses actions de médiation entre les gouvernements, de concertation diplomatique aux Nations Unies et d'enracinement de la démocratie dans les pays francophones. Un lien de solidarité entre les peuples qui favorise le développement économique des pays qui en ont le plus besoin, fournit des formations, notamment aux technologies numériques, et participe à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les pays francophones. Un lien qui harmonise développement économique et intérêts environnementaux grâce à l'Institut de la Francophonie pour le développement durable qui multiplie les actions d'information et de stratégie de maîtrise des ressources naturelles et de l'énergie. Un lien de partage des cultures et des diversités grâce à ses grands rassemblements sportifs, ses salons et rencontres littéraires,
ses festivals de cinéma, de musique et ses fêtes populaires à travers le monde. Un lien d'avenir grâce à l'engagement confirmé par la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, envers la jeunesse, qui tient une place importante dans les actions de l'OIF et envers la défense des droits des femmes. L'OIF réunit les peuples autour de la promotion de la langue française et fait de leur diversité une force au service de la paix, de la solidarité et de l'avenir.
Et maintenant, mesdames et messieurs, place à l'humour avec la seule, l'unique Claudia Tagbo. Eh oui, une femme bourrée d'énergie qui connaît un grand succès au sein de la francophonie. Née à Abidjan, Côte d'Ivoire, comédienne actrice, on l'a vu dans plusieurs grands rôles au cinéma. C'est votre cadeau pour la Journée internationale des femmes. Mesdames, messieurs, Claudia Tagbo. Et une pensée spéciale à toutes les femmes du monde, le 8 mars.
Moi, on m'a dit, tu vas voir Montreux, ils sont là quoi, avec toi. Donc je vous entends pas, vous êtes là? Il faut savoir que c'est vous qui faites le spectacle ce soir. C'est vous qui donnez l'énergie. On est là pour s'amuser avec vous. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des mecs dans la salle ce soir? En même temps, j'ai posé la question, mais heureusement qu'il y avait les filles pour vous donner la main, hein, pour venir jusqu'ici. Hein. Ah non, on m'a dit, Claudia, tu vas voir Montreux, les gars, ils maîtrisent tout là-bas. Ils maîtrisent le chocolat, ils maîtrisent le fromage. Ils maîtrisent le jazz, ils maîtrisent les impôts, hein? Ils maîtrisent l'humour, donc n'aie pas peur. Alors j'ai mes deux copines qui me disaient ça, mais n'aie pas peur, on sera avec toi, on sera au corps à corps avec toi. Elles sont venues, mes deux copines, les auréoles, elles sont là. Ben ouais quoi, j'avais tellement peur qu'elles sont sorties, attends. Pourtant je me suis blindée hein, ce soir, j'ai dit Claudia tu déconnes pas, hein? Tu mets ton super déodorant antitranspirant. Vous connaissez ce déodorant les filles, n'est-ce pas? Tu sais celui que tu mets et quand tu lèves le bras tu entends... T'as toute ta peau qui part avec. Mais ça doit pas être pour moi. Ça doit être pour les filles qui bougent pas. Tu sais, elles mettent le déodorant et elles bloquent. Oh, les pubs pour déodorant. Je suis sûre que vous avez déjà vu cette pub à la télé. Tu as la femme d'affaires qui arrive dans la pub dès 8h du matin avec des auréoles comme ça. Comme si elle venait de faire un marathon. Non mais si tu transpires comme ça dès 8h du matin, c'est plus un problème de déo. C'est une ablation des aisselles qu'il te faut. Non mais quand je regarde les pubs pour les produits féminins à la télé, je dis mais la vie d'une femme, c'est juste des problèmes quoi. Problème de cellulite, problème de cheveux gras, problème de fuite. La grimace de la fille quand la voix off, elle dit problème de fuite. Oh, oh. Ah mais à ce niveau de fuite, c'est plus des always qu'il lui faut, mais des pampers. Ah, d'accord. Ah, je vois, monsieur, ça vous fait rire, hein. Mais si c'était vous, là, vous seriez là, chérie, je t'en supplie, appelle les pompiers, je me vide de mon sang. Ah, 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 chachotte comme vous êtes. N'est-ce pas les filles que les mecs, c'est des chachottes? Mais ouais, n'ayez pas peur les filles, c'est moi qui ai le micro ce soir. Non, un mec, il a un petit bobo à la tête, c'est tout de suite. Oh, attends, tu vois pas là? Je crois que j'ai un cancer de la tête. Un petit bobo au genou. Non, attends, je crois que j'ai un cancer du genou. Un petit bobo zizi. Oh, faisons quand même l'amour. Il ne pense qu'à ça. Oh, il ne pense qu'à ça. Mon dernier petit copain me disait toujours, tu veux pas qu'on se fasse un petit peu de bien? J'ai dit, tiens, prends une aspirine, laisse-moi tranquille. Non, elle est pub. Les pubs pour shampoing. Tu vois la femme, hein, belle femme. Elle se pointe devant la caméra et puis elle te fait, moi, pour que mes cheveux gardent leur vigueur et leur souplesse, j'utilise Fritz de Garnier. Et elle fait ça. Publicité mensongère. J'ai acheté le truc. Voilà, hein, j'ai acheté. Toute la nuit. Tout ce que j'ai gagné, c'est un torticolis et pas de souplesse. Et tu vois, dans la pub, la fille, elle se lave les cheveux et elle sort. Non, mais c'est juste pas possible pour nous, les femmes noires. Parce que nous, les femmes noires, pour se laver les cheveux, il faut prendre un jour de RTT. Non, la veille, tu mets de l'huile d'avocat, du beurre de karité, tu mets ton foulard, tu dors. Le lendemain, premier shampoing, tu rinces. Deuxième shampoing, tu rinces. Un après-shampoing, tu rinces. Un bain de crème, une ampoule. Tu sèches tes cheveux pendant une heure, tu sors, il pleut. Vous avez Vous avez déjà vu dans une pub une femme dire « Je mange ce yaourt parce qu'il est bon ». Non, c'est toujours « Je mange ce yaourt parce qu'il favorise mon drainage lymphatique ». Du coup, quand tu manges ton yaourt, t'as forcément une copine qui vient te voir qui fait « Oh, tu manges un yaourt pour raffermir ta silhouette ?»« Je mange un yaourt parce que j'ai faim !» Tout le temps les mêmes slogans. 0% de matière grasse dans les yaourts, 0% de matière grasse dans les céréales. Tout ça pourquoi ? Pour plaire à ton homme qui lui toute l'année se tape des sandwichs. Monsieur prend un petit bidon comme ça, tu sais. Et nous les femmes, on est tellement généreuses. Ah mais non, mais son petit bidon, c'est la maturité. Hein? On dirait un peu mon nounours. Hein? 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 Et quand c'est nous les femmes qui prenons du poids, mais il faut voir comment on nous regarde. Même dans la façon de dire « passe-moi le sel », tu sais que c'est foutu. J'ai pas épousé ça, moi. Hein? J'ai pas épousé ça. Hein? Et comme si tu n'avais pas assez mal, tu as dans la pub la fille qui arrive qui te fait « Moi, ma balance, je m'en balance. » Je te jure, j'ai envie de mettre ma main dans la télé et de la gifler. Parce qu'on le sait tout ici, c'est faux. Que tu sois comme ça, on se pèse toute l'année. On a peur de notre balance. Rien qu'en voyant la porte de ta salle de bain, déjà, tu as peur. Tu rentres dans ta salle de bain, tu regardes ta balance. Ta balance te regarde. Tu t'approches, elle recule. Tu montes dessus, elle te fait « Erreur, erreur !» Et je vois, je ne suis pas la seule à vivre ça. Alors, mais je n'en peux plus des balances. Et les balances à aiguilles, mon Dieu, celle-là. Tu montes dessus, tu as l'aiguille qui te fait « Zzzz !» On dirait le juste prix, tu sais. Des fois même, j'enlève mes bagues, je dis « On ne sait jamais !» Non, mais si moi, demain, je devais faire une pub pour un yaourt, je voudrais que le yaourt s'arrête dans chacun de mes bourrelets, là. Parce que s'il n'y a pas ce truc autour de moi, quand on fait les affaires, tu t'accroches où ? Pour ceux qui n'ont pas compris, quand on fait l'amour, tu te retiens où ? Parce que la fille qui est foutue comme un bâton de sucette, ça se casse ! Moi, je suis un pot d'agenda. Si tu bloques, tu partages pas. Eh ben ouais, attends. Eh ben ouais. On le sait. Ben ouais. Et toutes ces femmes qu'on voit à la télé, qu'on nous dit que ce sont des bombes, on sait que ce sont des femmes en kit, n'est-ce pas les filles ? Quand elle rentre chez elle le soir, dans la salle de bain, face à son miroir, toute seule. T'as son mari qui rentre. Ah ! Non, je sais que je n'ai pas le gabarit de Kate Moss. Mais moi, j'ai juste envie de lui dire un truc à Kate Moss. Parce que je sais qu'elle vient ici, c'est son village de vacances. Je vais lui dire un truc à Kate Moss. Écoute-moi bien, Kate Moss. Quand toi, tu défiles, hein, il ne se passe rien. Moi, quand je défile, eh ben, le podium, il a la maladie de Parkinson. Il se passe quelque chose. Bonsoir, merci beaucoup.
Et oui, c'était Claudia Tagbo, franco-ivoirienne, qui connaît un vif succès dans la francophonie. Retrouvez son profil sur popourichaud.com. Bon mois de la francophonie. Et oui, maintenant, je vous invite à un dépaysement total à l'île Maurice, un pays membre de la francophonie, qui adopta une nouvelle constitution et son indépendance, qui fut proclamée le 12 mars 1968. Elle accéda au statut de république 24 années plus tard, soit le 12 mars 1992. Les Mauriciens sont pour la plupart bilingues et on les retrouve nombreux à Montréal, à Toronto, Ottawa et en Colombie-Britannique. Alors que le français est souvent perçu comme une langue assiégée, à Maurice, sa vitalité et sa créativité séduisent de plus en plus. Le 11 mars, nos amis mauriciens de la grande région de Toronto et le Blue Bay Band vous invitent à une soirée typiquement mauricienne. Retrouvez tous les liens sur popourichaud.com. Mais en somme, connaissez-vous l'histoire, le peuple mauricien ? Reportage.
Certes, l'île Maurice est connue comme un pays sécuritaire et même très beau. Mais quoi d'autre à part ces deux faits ? Il y a même ceux qui ne savent pas qu'il s'agit d'un pays de l'Afrique car sa beauté fait que certaines personnes ignorent ce détail. Prêt à connaître bien plus de faits sur l'île Maurice ? Voici 10 faits intéressants que vous ne connaissez peut-être pas sur l'île Maurice. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. 10. Célèbre destination pour la lune de miel. L'île Maurice est l'une des destinations de voyage les plus romantiques du monde. En fait, l'île Maurice a remporté le prix mondial de la meilleure destination de lune de miel au cours de 3 années consécutives. Célèbre pour ses lagons aux nuances de bleu turquoise et ses plages immaculées de sable blanc, l'île Maurice est l'île la plus visitée de l'océan Indien. L'arrivée des jeunes mariés à l'hôtel est vibrée par les danseuses de Sega sensuelles, musique traditionnelle de l'île, ajoutant un brin de romance dans l'air. Les mariés sont également accueillis avec des guirlandes de fleurs naturelles, un dîner romantique, du vin d'excellente qualité et bien plus encore. C'est une destination qui offre l'embarras du choix aux mariés. Entre plages, hôtels romantiques et croisières de rêve en catamaran, Maurice invite ainsi à l'amour. 9. Les Arabes, premiers habitants de l'île Maurice. L'île Maurice est longtemps demeurée inconnue et inhabitée jusqu'à ce qu'elle soit visitée par des marins arabes et qu'elle a, par après, figuré sur les cartes géographiques vers 1500 sous le nom arabe de Dinah Arabi. En effet, la découverte de l'île Maurice remonterait au 8e siècle, alors que les Arabes continuaient d'étendre leur puissance commerciale à travers tout l'océan Indien. L'île Maurice s'appelait alors Dinah Arabi et représentait un simple point de passage lors d'échanges d'or, d'animaux, d'esclaves et d'argent. Les Arabes ne s'y intéressaient que pour faire quelques escales, mais plusieurs pirates auraient trouvé refuge sur l'île et de nombreuses légendes faisaient état de plusieurs trésors dissimulés un peu partout sur le territoire. À ce temps-là, l'île Maurice n'était pas encore à proprement parler habitée. 8. La population mauricienne est métissée. La population de l'île Maurice est caractérisée par le métissage. En effet, cette population se remarque à travers les nombreuses fêtes organisées tout au long de l'année, par exemple le Taipusam Kavadé, le nouvel an chinois, ainsi que les fêtes musulmanes et chrétiennes. Le respect des institutions, la tolérance, le respect d'autrui et des traditions sont des valeurs encore très présentes dans la population. La fête Diwali, qui est une fête hindoue, est avant tout un moment de partage et d'unification de toutes les communautés mauriciennes, qu'elles soient musulmanes, hindoues ou catholiques. Les habitants célèbrent Diwali dans l'espoir d'un tout nouveau départ et d'éloigner les aspects négatifs de leur vie. À part la diversité de la population mauricienne, il y a également l'accueil et la gentillesse légendaire des Mauriciens, c'est la règle des 4 S. On vient pour le sable, le soleil et le service. On reçoit le sourire en prime. Naturellement doux et hospitalier, les Mauriciens sont la première richesse de l'île Maurice. 7. La capitale est l'une des plus anciennes villes du pays. Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, fait partie des anciennes villes du pays, et avant d'être baptisée Port-Louis, elle a porté d'autres noms et a une histoire à raconter. Dénommé Loc-Péran au Moyen-Âge, le bourg prit le nom de Port-Louis en 1618 en l'honneur du roi Louis XIII, qui voulut en faire une ville fortifiée pour protéger le royaume des insultes, des ennemis anglais, espagnols ou hollandais coureurs de mer. Louis XIV en fit le siège de la Compagnie des Indes Orientales en 1664 et fut à l'origine de celle de l'Orient. Le port Louis connut une grande période de prospérité avec le retour des navires chargés de richesses, or, argent, épices, tissus de soie, porcelaine. La ville historique abrite encore de belles maisons qui sont les témoins de son histoire. La citadelle, construite au XVIe et XVIIe siècle, abrite aujourd'hui le musée de la marine, le musée de l'arsenal, le musée des bateaux et le musée de la Compagnie des Indes françaises. 6. Grande production de sucre sous l'Empire britannique. La première usine sucrière a été ouverte en 1744. La culture de la canne nécessitait une main-d'œuvre abondante. 8 grands domaines se partageaient en 1810, les 3/4 environ d'une surface agricole qui ne représentait encore que 10% de la superficie totale de l'île. Vers les années 1830, il y avait 16 000 hectares sous culture de canne à sucre avec une production annuelle de 35 000 tonnes de sucre. Le modèle de grand domaine sucrier fut favorisé par l'expansion de l'industrie sucrière. De nombreux planteurs, petits et moyens, ont disparu à cette période. On parle de la formation de deux groupes, les blancs possédants et les non-blancs non possédants. Des crises économiques imposèrent une réorganisation de ce modèle dès 1840, avec de petits morcellements en 1840 et de grands morcellements en 1860. De petits lots de terre furent alors vendus aux travailleurs indiens. C'est à partir de là que l'industrie sucrière a connu une réelle expansion. 4. Le drapeau mauricien ou les quatre bandes. Le drapeau mauricien, couramment appelé les quatre bandes, a été ainsi baptisé le 12 mars 1968 lorsque le pays a eu son indépendance. Ce drapeau est fait de quatre bandes horizontales de même proportion et de quatre couleurs différentes. Bien que le drapeau mauricien varie plus ou moins selon qu'il se destine à un usage civil, sur les bateaux civils du pays, ou naval, sur les bateaux de la garde-côte nationale, les quatre couleurs officielles qui le composent demeurent, elles, toujours présentes. Et chacune d'elles a des attributs symboliques spécifiques. Par exemple, le rouge représente la lutte pour la liberté et l'indépendance, le bleu représente l'océan Indien, au milieu duquel l'île Maurice est située. Le jaune représente la nouvelle lumière de l'indépendance. Et enfin, le vert représente l'agriculture de Maurice et sa couleur tout au long des 12 mois de l'année. 3. L'esclavage était courant à l'île Maurice. Durant la période coloniale, la communauté de l'île Maurice était sous l'emprise de l'esclavage. Les Mauriciens d'origine africaine ont beaucoup souffert durant les périodes sombres d'esclavage. En effet, ce sont les colons hollandais qui ont amené les premiers esclaves sur l'île en tant que main-d'œuvre. Ensuite, les Français ont pris le contrôle de l'île Maurice en se concentrant sur la production de canne à sucre. Cela signifiait l'arrivée de beaucoup d'autres esclaves pour travailler dans les plantations. Et enfin, lorsque les Britanniques ont colonisé l'île en 1810, les esclaves représentaient environ 80% de la population de l'île, la plupart venant de Madagascar et d'Afrique de l'Est. C'est en août 1834 que l'esclavage a été aboli dans l'Empire britannique, mais il a fallu plusieurs mois avant que Maurice ne fasse de même le 1er février 1835, devenant ainsi la dernière des colonies britanniques à abolir l'esclavage. 2. Trois pays ont colonisé l'île Maurice. L'île Maurice a été colonisée par les Hollandais, les Français et les Anglais. En effet, en 1598, une escadrille hollandaise a débarqué au Grand Port sous le commandement de l'amiral Wybrand van Warwick. L'île fut alors nommée Mauritius en l'honneur du prince Maurice van Nassau, statoudeur de la Hollande. L'île est devenue une colonie française lorsqu'en septembre 1715, Guillaume Dufresne d'Arcel a débarqué et pris possession de ce précieux port d'attache situé sur la route des Indes. Il a nommé l'île Île-de-France, mais ce ne fut qu'en 1721 que les Français commencèrent à l'occuper. Et enfin, les Anglais ont débarqué en grand nombre au nord de Maurice et ont renversé rapidement les Français qui capitulèrent. Conformément au traité de Paris de 1814, l'Île-de-France, qui a repris son nom précédent de Mauritius, a définitivement cédé à la Grande-Bretagne avec ses territoires dépendants qui incluaient alors Rodrigue et les Seychelles. Sur l'acte de capitulation des Français, signé par les deux parties, les Anglais garantissaient qu'ils respecteraient la langue française, les coutumes, les lois et les traditions des habitants de Maurice.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage intercontinental de 3 heures. Et oui, lancement du mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Immense gratitude à cette généreuse bienfaitrice qui nous a permis d'avoir 3 heures à l'antenne aujourd'hui. Merci de nous faire confiance. Merci à Marceline et à Cinéfranco pour les billets gratuits. Le film Simone, le voyage du siècle au Cinéplex Cinéma Varsity le 8 mars prochain à 19h. Tous les détails sur notre site. Tirage au sort des billets gratuits dès demain. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Merci à notre nouveau partenaire, l'ACFAS à Toronto. Tous les détails de leur projet sur notre site, popourichaud.com. Et suivez les rendez-vous de nos amis, la compagnie Théâtre à Créole à Montréal. Merci en pile. Merci à France Inter, Radio France Internationale, à Paris, Port-au-Prince. Vous, chers auditeurs, auditrices, donateurs, donatrices et membres de la radio, mille merci. Merci à l'Organisation Internationale de la Francophonie. Francophonie en fête et les billets pour le grand spectacle qui s'en vient de la compagnie créole le 28 mars à ne pas manquer. Des billets vous attendent. popourri@cut.fm. Et merci à notre cher DJ Devera. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et je vous laisse avec la compagnie créole. Gagnez vos places en nous écrivant à popourri@cut.fm. Allez, ciao, ciao, ciao!
Más que en los papás, sale este oe, oe, oe. devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Aujourd'hui,